Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce best-of d'Estelle Midi. Durant toutes les vacances d'été, on va vous faire revivre les meilleurs moments de l'émission tous les jours, du lundi au vendredi. C'est parti pour le best-of d'Estelle Midi. Et on va poursuivre Estelle Midi tout de suite avec la polémique du jour. Ça se passe à Bordeaux où il faut désormais payer 17,40 € pour stationner une journée sur le parking de l'hôpital Pellegrin. Une hausse de 2,40 € qui ne passe pas auprès des syndicats et des familles de patients hospitalisés. Et Bordeaux n'est pas le seul hôpital, loin de là, à facturer très cher le stationnement, Charles.
Oui, et les transports, notamment le parking, représentent près de la moitié de ce qu'on appelle les restes à charge invisibles pour les personnes malades. Rapport de France Asso Santé. En cause, les concessions de parking hospitalier à des opérateurs privés qui se sont multipliés depuis une dizaine d'années. Manière pour les hôpitaux aussi de dégager de nouveaux revenus. Par exemple, la société Q-Park gère à elle seule 15 000 places réparties entre une douzaine de sites hospitaliers publics et quelques cliniques privées en France, avec des tarifs parfois très élevés pour les patients et leurs proches. Plusieurs fois, les parlementaires se sont saisis de la question. Un texte proposait de rendre tous les parkings d'hôpitaux gratuits, mais selon ses opposants, cette gratuité totale risquait d'encombrer les parkings qui auraient été squattés par d'autres voitures qui n'avaient rien à faire à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est un texte socialiste qui est débattu là, aujourd'hui, à l'Assemblée, et qui prévoit, je cite, de poser le principe de gratuité du stationnement dans les parkings d'hôpitaux pour les patients et instaurer un plafonnement des tarifs pour les visiteurs.
Alors, faut-il rendre les parkings d'hôpitaux gratuits, Baptiste Desmontiers ?
C'est vrai que c'est un peu choquant quand on est obligé de payer. Moi, j'ai même trouvé des tarifs encore plus chers. Ouais. Aujourd'hui, le parking de l'hôpital vous coûte plus cher que le parking de l'aéroport. J'ai fait une petite recherche avant de venir. À côté de chez nous, là, juste à côté de chez nous, il y a Georges Pompidou. Bon, ouais. Alors, il est en pleine ville, donc c'est particulier. Mais c'est encore plus cher qu'à Lille. Hein. Pour les 24 heures, c'est 10 jours, en gros, c'est 300 € si vous restez à chaque fois 24 heures. Non, il y a un vrai problème. Après, il doit y avoir des systèmes, parce qu'évidemment, le problème, c'est les squatteurs. Mais il doit y avoir des systèmes. Vous avez, je sais pas, un justificatif, comme quand vous allez faire vos courses et que vous avez avec votre ticket de caisse, vous avez une heure gratuite. Il doit bien y avoir des systèmes à mettre en place.
Oui, mais si ta barrière de parking ne marche pas, par exemple, aujourd'hui, c'est la société de parking que tu payes en stationnement qui vient la réparer.
Bien sûr.
Si tu as un problème de peinture, si tu as un problème d'électricité, ce machin. En fait, ces sociétés, elles gèrent les parkings. Ça veut dire que ce n'est pas à l'hôpital de payer. Si tu rends gratuit, qui va payer le problème de la barrière? Qui va payer le gardien? Qui va payer? Et donc, ce sera l'hôpital.
Il faut que ça soit payant, mais des tarifs comme ça, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est-à-dire que, je regardais le marché du parking, les hôpitaux, c'est 10%. Du marché des parkings en France. Attendez, tous les hôpitaux sont pas en zone centrale, en zone de ville. Il y a quand même beaucoup en province d'hôpitaux qui sont en race campagne où il n'y a pas énormément de commerce autour. Et donc il n'y a pas de problème de squatteurs, il n'y a pas de problème de gens qui vont venir mettre leur véhicule. C'est juste de la gratte sur le dos des patients et sur le dos des familles des patients. Et les accompagnants, quand vous avez un proche qui est malade et vous êtes obligé d'y aller tous les jours. Ça fait cher l'addition, quoi.
Et peut-être faire la différence entre les hôpitaux qui sont très bien desservis par les transports en commun, notamment à Paris, et puis les hôpitaux qui effectivement sont en race campagne où tu ne peux y aller que en voiture ou alors en bus, mais avec un bus qui passe une fois toutes les 3 heures. Fred Hermel, ça vous semble être une bonne idée, vous, la gratuité des parkings, ou peut-être un petit forfait?
Ouais, mais en fait, il y a une question d'organisation, mais il n'y a déjà pas assez de personnes dans les hôpitaux. Si en plus on prend quelqu'un pour poinçonner les tickets, ça va être compliqué. J'étais en train de réfléchir, moi je vois à Arras, l'hôpital est... Mais il y a de la place et c'est gratuit. C'est gratuit. Et l'autre, le grand hôpital privé, c'est pareil. Donc ils sont un petit peu décalés par rapport au centre-ville.
Oui, donc personne ne peut squatter, en fait.
Bon, en fait, il y a tellement de place que... C'est... Donc, en fait, chaque cas est différent, malheureusement. Parce que quand tu es en plein centre de Paris, bah, automatiquement, c'est pas pareil que quand tu es en province. Tout serait plus simple si les gens étaient respectueux. S'il n'y avait pas ces fameux gratteurs. Voilà. Mais on est obligé aujourd'hui de prendre en compte le manque de civilité des gens quand on fait ça. Et c'est dommage. Mais t'es obligé de prendre en compte parce que tu vas faire.
Aussi les hôpitaux où les parkings sont trop petits, des hôpitaux qui ont grossi avec des ailes nouvelles, etc.
Oui,
des services nouveaux. Et tout d'un coup, le parking, lui, il ne peut pas grossir, tout simplement. Et donc, tu te retrouves avec un parking qui est trop petit pour l'hôpital. Bien donc, qu'est-ce que tu fais?
Et t'as aussi le problème qu'il y a une chasse aux voitures qui a été faite par plusieurs mairies, avec notamment la fermeture de plein de places de parking, en fait. Parce que s'il y a des gens qui vont gratter la place à l'hôpital, c'est parce qu'on a. Je suis désolé, on a supprimé plein de places dans la rue, payantes, mais pas à ces prix-là, parce qu'on a fait des pistes cyclables. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, de toute façon, régulièrement, la question de la voiture revient dans ce programme.
Oui, c'est vrai.
Parce que il y a 20 ans, on ne parlait quasiment pas de ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur la place de la voiture dans la ville et dans la vie. Et on est en train de vivre une révolution. Et oui, éliminer les voitures et les places de parking, ça a une influence dans des moments de la vie quotidienne, non seulement ceux quand on est malade.
En tout cas, faut pas avoir beaucoup de morale quand même pour se garer pour faire ses courses sur le parking d'un hôpital. Juliette Briens, est-ce que vous êtes plutôt favorable pour une gratuité des parkings à l'hôpital ou plutôt pour un forfait, par exemple, à 5 € par jour, 10 € par jour, mais peut-être pas 30 quand même?
Pour moi, ça peut pas se décider à l'échelle nationale parce que comme on l'a dit, il y a certains hôpitaux où il y a absolument aucun problème, donc il y a aucune raison en fait de rendre le parking payant, parce qu'il y a tout simplement de la place parce que c'est pas à proximité de commerce, etc. Mais on peut pas imposer à certains hôpitaux qui sont en centre-ville, qui sont justement entourés de commerces et avec des places qui donnent très envie en fait quand on cherche une toi-même, de le rendre gratuit. Ce qui est essentiel, c'est que si t'as un enfant qui est malade du cancer et que tu dois aller le voir tous les jours, que tu puisses évidemment te garer sans aucun problème et de manière gratuite. Ça doit quand même pas être très compliqué, comme dit Baptiste, de trouver, je sais pas, il faut avoir un peu d'imagination, mais un système qui permet de différencier ceux qui ont une raison d'être là de ceux qui n'en ont pas. Je sais pas ce qu'on peut imaginer, mais ça me paraît pas non plus être si vous voulez une épreuve absolument extraordinaire. Il faut trouver un système pour empêcher les squatteurs de squatter et permettre aux autres de se garer gratuitement. Sinon, on ne peut pas payer 17 € par jour tous les jours quand on a un proche malade à l'hôpital ou qu'on est patient soi-même. C'est insupportable.
Mais d'ailleurs, c'est ce qui se fait au cinéma. Dans certains cinémas, en fait, tu vas voir un film et derrière, tu demandes une contre-marque en fait, au cinéma et on te donne un truc pour faire que tu ne payes pas le parking quand tu vas au cinéma. Donc, on devrait pouvoir le faire aussi pour l'hôpital. Au moins, avoir des forfaits, par exemple, pour la famille de 3 heures. Voilà, tu as le droit d'aller voir ton proche 3 heures. Les 3 premières heures sont gratuites et après, pourquoi pas, tu payes. En tout cas, on a beaucoup de messages sur WhatsApp,
Fabien,
Charles.
Nous dit, par exemple, à Saint-Etienne, les patients ont un QR code, un code barre qui donne droit à 30 minutes ou une heure de parking offert. Gaëtan nous dit pour le parking de l'hôpital Pelgrin à Bordeaux, le souci c'est qu'il y a le stade Chabon-Delmas juste à côté, tous les Bordelais cigares, pareil, il y a une station de tram qui permet d'aller rapidement en centre-ville, j'habite à 500 mètres et je vois tous les jours le parking bondé, c'est ce que nous dit Gaëtan. Julien nous dit à Montpellier au CHU La Péronie, ils ont été obligés de rendre le parking payant parce que les gens égoïstes, individualistes n'arrêtaient pas de cigarer pour ensuite prendre le tram pour se rendre en ville pour la journée et donc laisser leur voiture à la journée à l'hôpital.
Et puis comme il y a un vieillissement de la population, c'est pas prêt de s'arrêter ce phénomène des parkings saturés. Nous sommes avec Dimitri, il nous appelle de Nantes. Bonjour Dimitri.
Bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Et vous vouliez pousser un coup de gueule contre un hôpital privé de Nantes, c'est ça?
Oui, en fait, moi je suis en dialyse, donc en 2023, voilà, j'ai des problèmes rénaux, je passe en dialyse et je dois aller 3 fois par semaine pendant 4 heures me faire dialyser à l'hôpital du Confluent et pour 4 heures ou 5 heures de parking ça coûte 30 €.
C'est énorme.
C'est pire que ça, c'est que maintenant je suis en dialyse à la maison, en péritonéale, et donc je vais une fois par mois à l'hôpital du Confluent, je m'y rends avec ma propre voiture, j'ai mon rendez-vous et je dois courir et je dois dire à mon docteur, je dois y aller, excusez-moi, parce que au bout d'une heure, je me fais taxer 6 € pour 4 minutes de dépassement la dernière fois, c'était il y a une semaine.
Et Dimitri, si vous êtes en dialyse, vous n'avez pas de transport sanitaire en fait? Il n'y a pas de bon transport.
J'ai dû, quand j'étais en hémodialyse, j'ai dû avoir recours au transport sanitaire pour pas avoir à payer 90 € par semaine, donc 360 € par mois de parking. Il y avait peut-être des procédures de remboursement, mais dans tous les cas, il faut sortir l'argent. C'est
bien sûr,
considérable, quoi.
Évidemment.
Et donc, du coup, je me faisais transporter, ce qui coûtait encore plus cher à la société. Au final, quoi.
Bah oui, vous avez raison. Et évidemment, ça a toujours un coût. Merci beaucoup, Dimitri, en tout cas, de nous avoir appelé. Autre appel, celui d'Amélie, qui nous appelle de Reims et qui est accompagnante. Vous accompagnez votre mère à l'hôpital. C'est ça, Amélie?
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour Amélie, comment ça se passe Alors c'est à Reims alors?
Oui, alors moi j'habite à Reims, mais ma maman habite à Rennes.
D'accord.
Et elle a malheureusement eu un grave cancer. Mmh. Donc j'étais allée à Rennes pour aller la voir.
Bien sûr.
Elle avait un rendez-vous à l'hôpital, donc le rendez-vous était planifié à l'avance. Et en amont de son rendez-vous, elle a reçu un courrier de l'hôpital avec un code d'accès. Et du coup, on a pu aller sur le parking, hop, je tape le code, la barrière s'ouvre, je me gare et nickel, et gratuit.
C'est bien ça.
Bah oui, je pense qu'il y a effectivement quelque chose à creuser là-dessus, au moins en tout cas pour les rendez-vous planifiés à l'avance.
Oui, et puis c'est quand même, ça facilite la vie quand on se dit que voilà, ça va être gratuit, que c'est pas un sujet, parce que quand on se dit qu'on doit débourser effectivement 400 euros par mois pour le parking, là ça devient un sujet. Et quand on accompagne quelqu'un à l'hôpital ou quand on est soi-même malade, on a d'autres choses à penser finalement que le prix du parking. Donc bravo à l'hôpital de Rennes en tout cas d'avoir mis ça en place. Merci beaucoup Amélie, et bon courage pour votre maman. Autre message sur WhatsApp, Charles.
D'abord une petite correction, vous êtes nombreux à nous signaler que le parking de l'hôpital d'Arras est désormais payant depuis voilà, plusieurs mois.
Moi, j'étais au mois d'avril, c'était gratuit.
Eh ben, vous êtes nombreux à nous dire, et notamment, ça s'est même étendu l'été dernier, les deux parkings de l'hôpital, mais la clinique privée, qui n'est pas loin, a toujours un, j'ai tout le détail là, d'Arras, là, qui m'arrive sur WhatsApp. Peut-être.
C'était au mois d'avril.
Et bah, depuis septembre, le parking est payant. Oui, ou peut-être que tu vas recevoir une contravention. Voilà. Jérémy nous dit, moi, je suis infirmier à l'hôpital, notre parking est gratuit. Bah, résultat, on doit tous venir au moins une heure en avance pour espérer trouver une place le matin, au moment de venir bosser. Fred nous dit, à Saint-Malo, le parking était gratuit, mais il y avait tellement de squatteurs que l'hôpital l'a rendu payant pour justement que les patients puissent accéder à l'hôpital. Et Jean-Luc nous dit quand même, on est en 2026, avec la reconnaissance de plaque, on devrait être capable quand même d'enregistrer sa plaque en ligne et d'avoir la barrière qui s'ouvre uniquement pour les patients et leurs visiteurs.
Non, mais c'est vrai, en plus, on ne pense pas aux soignants. Les soignants qui travaillent à l'hôpital doivent, j'imagine, avoir des dérogations, mais c'est
pas sûr.
Si on paye 50 balles par jour pour aller travailler, ça devient compliqué quand on est soignant et quand on est infirmier et qu'on a un petit salaire. Effectivement, il y a un vrai gros sujet.
Et on termine avec Jean qui nous appelle de Millau. Il est retraité, il travaille au CHU de Rennes. Alors, c'est peut-être l'hôpital dont on vient de parler d'ailleurs. Bonjour Jean.
Oui, bonjour. Oui, alors petite rectification, c'est pas au CHU de Rennes, mais ça avec mon accent, c'est pas évident, c'est au CHU de Rennes.
Dans le d'accord. Ok.
Bon, c'est pas grave. Non, c'était juste pour vous apporter une petite idée, parce que bon, moi j'ai travaillé quand même pas mal de temps, une quarantaine d'années au CHU de Reims, et en fait, je pense qu'on peut avoir des solutions relativement faciles. C'est-à-dire que je vois au CHU de Reims, mais comme dans la majorité des grands hôpitaux, il y a des gardiens à l'entrée qui gèrent une barrière et qui laissent rentrer ou pas les patients ou les employés, etc. Donc, je pense que le gardien qui est à l'entrée du parking, il peut très bien accéder via un PC au nom du patient, sans bien sûr accéder
au dossier médical.
Mais uniquement le nom, ça permettrait de savoir si effectivement cette personne-là est hospitalisée ou pas. Si elle est hospitalisée, on laisse passer la personne. Et s'il n'y a pas ce nom-là, eh bien on laisse pas rentrer.
Alors après c'est un peu une usine à gaz parce que vous savez pas toujours qui va venir vous rendre visite quand vous êtes malade. Vous pouvez avoir des amis qui passent qui n'étaient pas forcément prévus et qui tout d'un coup sont à côté et se disent je vais aller lui rendre une petite visite. En fait on ne sait pas toujours qui vient vous visiter chaque jour, donc là c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Merci en tout cas Jean de nous avoir parlé du CHU de Reims, et on termine avec des messages et le résultat de notre sondage. Charles.
Oui, Alex qui nous dit non seulement c'est payant mais parfois c'est aussi galère pour moi à Montpellier de trouver une place. Ça m'est déjà arrivé de faire demi-tour, de louper une consultation parce que je n'arrivais même pas à me garer. Et puis j'ai Tudjoy qui nous dit bah oui, il faut bien que quelqu'un paye à un moment. Si tous les parkings d'hôpitaux sont gratuits, ça veut dire qu'on le paye tous quelque part avec nos impôts, ce parking. Alors faut-il rendre les parkings d'hôpitaux gratuits? On vous a posé la question sur nos réseaux et c'est franchement oui. Oui à 86%.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Les trois cafés gourmands. Ben oui, parce que c'est notre thème du jour. Oui. Les trois cafés gourmands, bien sûr. Ce chiffre d'abord, 750 millions, c'est le nombre de cafés gourmands qui se vendent chaque année en France. Mini verrine de panna cotta, mini moelleux au chocolat, salade de fruits, mini tarte au citron ou encore financier. Ces petits desserts font le plaisir des Français en fin de repas. Mmh. Et c'est une aubaine pour les restaurateurs qui facturent leurs cafés gourmands, souvent industriels, quand même, il faut le dire, à prix d'or, Charles.
Oui, le café gourmand est arrivé sur les tables il y a une trentaine d'années avant de se généraliser à partir de 2010. C'est le dessert parfait d'abord pour les clients pressés qui veullent le café et le dessert en même temps. Et pour les
tu peux le demander. Tu peux demander un dessert et un café en même temps, Charles.
Voilà,
non, bien sûr que
non. Mais surtout.
Bonjour, j'aurais une tarte citrouille et un café en même temps. Enfin,
c'est pas conventionnel.
Mais le gain de temps, c'est aussi qu'on n'a pas à réfléchir. Ça aide aussi les indécis, ceux qui n'ont pas envie, qui n'arrivent pas à se décider devant la carte des desserts.
Bah si, parce que tu dis qu'est-ce qu'il y a dans votre café gourmand.
Ah non, moi j'aime bien la surprise. J'aime bien dire café gourmand et puis on verra ce qui arrive.
Tu payes 15 euros sans savoir ce que t'as.
Oui, alors on va pas dans les mêmes restaurants.
Non, 15 euros. L'abus est total.
Je paye 8 euros et tout va bien. Ah, en tout cas, ce succès sur lequel surfe aussi l'entreprise Métro, qui propose depuis une décennie maintenant des packs tout prêts à faire réchauffer des mini tartes, des mini moelleux, des panna cotta en briques. Ce qui permet aux restaurateurs de faire de belles marges. On estime que sur un café gourmand vendu en moyenne 1100 euros, la marge peut atteindre 5 euros. Et pour redorer l'image du café gourmand, sachez qu'il y a désormais un championnat du monde qui a été lancé par des chefs pâtissiers. C'est la jeune Romane Picard-Sanzet qui a 23 ans et qui est désormais la championne du monde du café gourmand.
Et sachez que dans un instant, nous serons en ligne avec l'inventeur du café gourmand, Bernard Boutboul, notre invité depuis 5 ans. Aujourd'hui, qu'il était l'inventeur du café gourmand.
Il nous expliquera
comment il a créé le café gourmand. Il sera avec nous dans
un
instant.
Sans doute. Avec des restes de gâteau peut-être.
Bon, écoutez, nous demanderons à Bernard. Ne me fâchez pas, Bernard, avant qu'il arrive. Et nous en parlerons avec lui dans un instant. Mais tout de suite, ma question. Le café gourmand, est-ce pour vous un plaisir ou une arnaque, Juliette Briens?
Magnifique, le café gourmand. Sachez que j'ai fait un master en gestion. J'ai fait un master en gestion hôtelière et à l'époque, ma promo avait invité Bernard Boutboul, donc ça fait quand même quelques années. Et Bernard Boutboul, que je ne connaissais pas à l'époque, était venu et nous avait en avant-première révélé l'histoire du café gourmand, effectivement, qui l'a inventé.
Mais ne le dis pas, il est avec
nous. C'est une invention française parce qu'effectivement, quand vous allez dans les autres pays européens, etc., le café gourmand n'existe pas.
Oui. Donc moi, je ne comprends pas non plus.
C'est merveilleux. Et je ne vous laisserai pas dire que c'est une arnaque. C'est une arnaque du moment où vous êtes frustré par le rapport qualité prix de votre café gourmand. Mais si vous êtes satisfait, vous savez que le café, c'est une arnaque aussi. 3 euros le café, vous pensez que c'est pas une arnaque?
La marge sur le café,
oubliez le gourmand. Le café, la marge est extraordinaire sur le café. C'est comme ça qu'ils se font
Là, ça fait une double marge.
Mais
pourquoi tu prends un café gourmand? Pourquoi tu prends pas un dessert?
Parce que quand tu vois, par exemple, tarte au citron meringuée, tu te dis tout de suite, mais je vais exploser si je mange ça. Oui, ça va être beaucoup trop gros.
Alors qu'avec 4 verrines, il n'y a pas de problème.
Oui, parce que c'est des plus petites quantités. Ça te permet, parce que dans les bons cafés gourmands, normalement.
C'est quoi un bon café gourmand?
Une association des différents desserts qui sont présentés à la carte. C'est-à-dire, c'est pas un truc qui est à part, la salade de fruits, non. C'est-à-dire qu'il y a 4 desserts à la carte, et ben, il y a 4 mini portions des desserts qui sont présentés à la carte dans ton café gourmand, parce que comme ça, tu peux tout goûter.
Ouais. Encore faut-il que chez Métro, ils aient le gros et le petit dessert.
Le concept, moi je parle pour les puristes du café gourmand.
Alors vas-y.
Le vrai concept, c'est ça, c'est que tu peux goûter.
Mais alors qu'est-ce que tu aimes? Alors déjà, est-ce que tu demandes au serveur qu'est-ce qu'il y a dans ton café gourmand?
Alors les verrines, moi ça m'emmerde, je vous le dis tout de suite.
Il y a toujours une verrine de panna cotta.
La verrine de panna cotta, c'est insupportable.
D'accord, alors qu'est-ce que tu peux.
Il faut le mini. Il y a un financier, un bon financier myrtille ou amande. Vous avez un petit truc au chocolat, parce qu'il faut toujours un bout de chocolat. Donc ça, c'est un petit fondant, un petit moelleux, etc.
Oui, c'est équilibré.
Et puis quelque chose de plus frais. Donc moi, je préfère personnellement.
La glace.
Voilà, une petite boule de glace à la panna cotta qui est quand même vraiment d'un ennui total. Et donc, vous avez chocolat, vous avez création, vous avez le frais et votre café à côté. Vous avez goûté à tout. Et vous êtes beaucoup moins lourd en sortant du repas que si vous aviez mangé la tarte meringuée en entier.
Et surtout, ton convive te dit toujours « Ah, mais je peux t'en prendre un ?» T'avais qu'à prendre un café gourmand. Ça, c'est quand même le problème quand tu prends un café gourmand. Ouais. Personne te dirait « Tiens, donne-moi la moitié de ta tarte. »
Si, ça existe. Je peux prendre un petit croque de ta tarte. Ça existe aussi, Estelle. Vous faites des histoires pour rien. Là.
Quand tu es avec quelqu'un que tu connais à peine, il te demande pas un petit croque de ta tarte.
Ça dépend ce qui risque de passer.
Ça dépend ce qui se passe après. On revient sur la question de l'addition, qui paye l'addition, etc.
Ce qui est du génie, mais pour les restaurateurs, c'est que c'est très difficile après un bon repas de faire passer le pas au consommateur qui a déjà bien mangé, de prendre un dessert. prendre un dessert, t'as l'impression de te
mais vraiment de
t'engager dans quelque chose de vraiment
mais faut pas s'engager,
le café gourmand en fait te désinhibe, il te décomplexe totalement et tu dis mais non, c'est pas un dessert, c'est un café gourmand.
Voilà.
Et donc voilà, c'est du génie.
Et il te délaisse une grande partie de ton de ton prêt.
Je critique beaucoup souvent les restaurateurs pour dire qu'ils manquent d'idées, qu'ils manquent comment dire de
là
c'était du génie.
Oui, là c'est très loin.
Bravo Bernard.
Bernard Woodbull sera avec nous dans un instant. Mais je voudrais écouter Fred Hermel sur le café gourmand. Fred Hermel, est-ce que vous aussi, vous vous laissez tenter par ce genre de choses?
Je crois que je n'ai jamais goûté un café gourmand.
Oh.
Non, parce que déjà, moi, des petites parts, ça ne m'intéresse pas. Quand je veux un dessert, je veux un bon gros dessert. Voilà, moi, j'ai l'impression de ne pas manger. Et ensuite, je bois très peu de café parce que je trouve qu'en général, le café n'est pas bon.
Ah oui. Oui, donc là, évidemment.
Allez, merci.
Vous savez que des restaurants font des thés gourmands.
Oui, mais pareil, mais de toute façon, les thés ne sont pas bons non plus.
Et je ne vais jamais au resto en plus.
Non, non, mais je bois du café quasiment qu'en Italie parce que là, c'est extraordinaire.
Non, mais
une fois sur deux, mon café, je le renvoie parce qu'il n'est pas assez serré, il n'est pas assez chaud.
Le café gourmand,
le concept, c'est un truc génial pour faire gagner de l'argent aux restaurateurs. Parce que Juliette l'a dit, et je précise, l'objet, enfin, le plus rentable de toute la restauration, c'est le café.
Ah oui.
C'est-à-dire, c'est numéro un.
Oui.
C'est-à-dire que le rapport qualité coût pour le restaurateur et la marge, c'est la plus grosse marge.
D'accord, mais si c'est bon.
Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime pas les petits trucs. J'aime bien une belle part de dessert. C'est-à-dire une mini tarte, ça me plaît pas. Moi, j'aime bien un vrai dessert.
Sur la carte des desserts, t'as trois trucs qui te tentent.
Je finis toujours par en choisir un parce que j'aime pas les mini trucs.
En tout cas, on vous amènera au restaurant pour goûter un café gourmand. En fait, c'est
pas. Ouais, pas non, mais j'ai pas. Non, mais ça.
Pas dans cette ignorance.
Non, c'est des petits trucs. J'ai pas là. Puis c'est. Non, je. Il y a quelque chose un peu mesquin, je trouve, dans le petit café gourmand, le petit truc là. Moi, j'aime bien le bon vrai dessert, quoi.
Alors, dans un instant, nous entendrons l'avis de Baptiste Desmontiers sur le café gourmand. Mais avant cela, nous avons le plaisir. La fierté
d'accueillir l'inventeur
du café gourmand dans cette émission, c'est Bernard Boutboul, directeur du cabinet conseil Gira. Bonjour Bernard.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Mais enfin
bonjour
Bernard, ça fait 5 ans que nous nous fréquentons et je ne savais pas que vous étiez l'inventeur du café gourmand, mais enfin c'est fou quand même.
Et oui, c'est dans les années 90 qu'un de nos clients nous dit « Je vends de moins en moins de desserts, est-ce que tu as une idée ?» Alors, on a copié les gastros, vous savez, qui vous emmènent des milliardises à se partager en fin de repas. Et on a dit « Pourquoi pas individualiser ce grignotage sucré avec des mini-desserts autour d'un café et d'un thé ?» Et le café gourmand est né.
Et Bernard, vous avez déposé le nom « Café gourmand », c'est vous qui l'avez inventé ?
Oui, mais malheureusement, on peut pas le déposer, c'est pas déposable, c'est deux noms communs. Je sais qu'il y a un groupe qui fait de la musique et qui s'appelle
Les Trois Cafés Gourmands.
Exactement, mais c'est pas déposable.
Bernard Boutboul, c'est quoi le secret d'un bon café gourmand?
Le secret d'un café gourmand, je l'entendais là précédemment, c'est utiliser les desserts qui sont fabriqués sur place. Parce que les cafés gourmands qui sont faits avec des produits industriels, c'est pas bon. C'est pas bon, non. Franchement, c'est pas bon. Et on gâche le plaisir du consommateur français qui veut terminer par du sucré en lui donnant des produits qui ont un goût pas terrible, quoi. Et la structure d'un café gourmand, normalement, c'est trois items. Il faut un chocolaté, il faut un fruité et il faut un lacté.
D'accord. Et les restaurants qui proposent 5 milliardises en café gourmand, faut pas y aller, quoi.
Non. Ça non, ça non. Et il est en train, on a conseillé à quelques clients de lancer maintenant le café gourmand à partager. C'est-à-dire que vous prenez chacun votre boisson chaude et puis il y a 4, 5, 6, 7 mini pâtisseries comme ça qu'on se partage. Et là, ça devient intéressant. On a même fait des cafés gourmands thématisés, le café gourmand italianisé, américanisé, asiatisé. Et ça fait entrer en France des goûts de sucré qu'on connaît pas bien. Enfin, le tiramisu est rentré comme ça, hein, par exemple.
Mais c'est dingue. Et comment vous expliquez le succès des cafés gourmands, justement? Pourquoi est-ce qu'on en raffole?
On en raffole parce que les Français font partie des quelques peuples dans le monde qui ne conçoivent pas de terminer un repas par du dessert. Les Anglo-Saxons sont plutôt en très plat. Nous, on est plutôt plat et on termine par du sucré.
D'accord. Donc, a priori, le café gourmand a de beaux jours devant lui.
Oh oui. Il y a aujourd'hui un repas sur trois pris au restaurant qui se termine par un café gourmand. C'est colossal.
Oh, bravo, dommage mais Bernard, vous n'avez pas pu breveter cette invention. En tout cas, bravo Bernard, bravo. Et nous, on est très fiers de vous avoir très souvent avec nous dans Estelle Midi. Bernard Boutboul, inventeur du café gourmand. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous. Et justement, nous sommes avec Thierry, qui est maître de salle en restauration dans le Var à Tarado. Bonjour Thierry.
Bonjour, bonjour l'équipe.
Thierry, est-ce que vous servez des cafés gourmands dans votre resto?
Énormément.
Ah.
C'est même un best-seller chez nous.
Et alors, il y a quoi dans ce café gourmand, Thierry?
Alors, dans ce café gourmand, il faut dire que nous avons, nous, une carte qui change tous les 3 mois. Donc, on suit les saisons.
D'accord.
Nous sommes maîtres restaurateurs, donc aucun produit surgelé. Nous faisons même nos glaces.
Ah, super.
On a un chef pâtissier à demeure. Et qui change donc le café gourmand tous les 3 mois, en même temps que notre carte de dessert. Et son café gourmand, notre chef pâtissier, en vérité, c'est une assiette où il y a 5 desserts dessus.
Ah, bravo.
5 mini-desserts. Qui sont dans la carte. C'est-à-dire, c'est un petit dessert qui est décliné par rapport à la carte que nous avons. Donc.
Et
par exemple, il y avait un mini citron gourmand, une mini pavlova, il y avait une mini boule de glace, et je crois que c'était il faisait une petite boule de glace à la cerise, faite maison, avec une crème montée vanille panna cotta. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore là-dessus? On fait pas de verrine, parce que pour moi, ça n'a aucun sens, la verrine.
Mais bravo, mais bien sûr, Thierry.
Nos desserts, en vérité, sont tous faits maison par le chef pâtissier. Et c'est un best-seller parce que le premier qui sort en salle, quand les clients le voient, ben, tout le monde le prend.
Ah oui. Et il est à combien, Thierry, votre café gourmand?
Il est à 15 euros.
Wow. Ah, c'est pas donné, quand même.
Là, c'est un dessert avec un café, en fait. C'est le prix d'un dessert avec un café.
C'est
du fait maison.
Oui, ok, d'accord.
C'est du fait maison, on est maître restaurateur. D'ailleurs, si vous avez devant vos tablettes, allez voir sur le site du restaurant ou même sur les réseaux sociaux, vous allez les voir, ils sont en photo. C'est une merveille.
Hein. Alors, Thierry, ça nous a donné très envie d'aller dans votre établissement. Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle La Grotte. À Trans-en-Provence, le restaurant La Grotte à Trans-en-Provence. C'est une véritable grotte millénaire.
Hein. Oh, bah,
on travaille dans une grotte de 400 000 ans.
Ah bah écoutez, génial. Bah, merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous pour nous parler de vos cafés gourmands. Et on termine avec Philippe qui est dans l'informatique à plaisir dans les Yvelines. Bonjour Philippe.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour. Philippe, est-ce que vous faites partie des amateurs ou des détracteurs du café gourmand?
Amateur de café gourmand.
Ah, qu'est-ce que vous aimez dans le café gourmand?
C'est tout, en fait. J'aime pas les desserts, mais quand il y a un café gourmand, je prends un café gourmand parce que j'ai besoin de cette petite note sucrée à la fin. Et mon rêve, c'est d'avoir un riche café gourmand, comme ça on ajoute en plus le pouce café.
Ah oui, d'accord. Ah. Oui, là, c'est un tout en un.
C'est dur d'en retourner bosser après, quoi.
Oui, c'est ça. Mais alors, Philippe, est-ce que vous demandez au serveur ce qu'il y a dans le café gourmand ou est-ce que vous aimez garder le mystère?
La surprise.
D'accord.
Voilà, toujours la surprise.
Mais qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir?
Alors pour moi, c'est une petite boule de glace, une petite chantilly avec des éclats de noisettes par-dessus, une crème brûlée, pas la panna cotta, une crème brûlée, c'est très très bien.
Ah oui, c'est
et, pas besoin de chocolat, non.
Bah, il y a que deux là, hein. Dites donc Philippe, c'est un mini café gourmand.
Boule
gourmand,
de glace, chantilly, le financier.
Ah la chantilly, c'est un des desserts. Bah, il se fout pas, dites donc, votre restaurateur.
Dans une petite coupelle à côté, une petite pointe de chantilly, comme ça on peut la mettre légèrement sur le café,
c'est
super agréable.
Ah oui. Et vous payez ça combien, Philippe?
Pour moi, maximum, ça ne doit pas dépasser les 10 euros.
Ah oui, d'accord. Ouais, donc, c'est pas le café gourmand, effectivement, à 15 euros. Non, mais le café, plus les petites mignardises, à moins de 10 euros, bon, bah là, on arrive à être compétitif. Sauf si c'est évidemment industriel, évidemment. Voilà. Merci Philippe d'avoir été avec nous, fan de café gourmand.
Café gourmand, plaisir ou arnaque? Vous avez répondu arnaque à 66%. C'est peut-être ça le secret du café gourmand, c'est qu'on aime se faire arnaquer.
Oui, mais c'est peut-être les deux aussi. C'est un plaisir et c'est une arnaque. Et puis allons-y, mais en tout cas, ça plaît beaucoup.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
On va s'intéresser tout de suite à la tendance du jour. Et cette tendance, eh bien, c'est celle de passer sa retraite à l'étranger. 1 200 000 Français ont fait ce choix. Ça représente quand même plus de 8% des retraités. Et ce chiffre est en constante augmentation puisqu'il a doublé en 5 ans. Mmh. Charles, pourquoi ce choix de quitter la France et surtout, où partent les retraités?
Alors, plusieurs critères qui poussent les retraités à quitter la France. Le coût de la vie, l'immobilier, le climat, le patrimoine naturel ou culturel, la gastronomie, les loisirs ou encore la sécurité.
C'est beaucoup quand même.
Oui, bah voilà tous les critères, en tout cas, qu'il faut prendre, comprendre.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critères, je veux dire?
Bah, il y en a une bonne dizaine, mais en tout cas.
Tu aurais dû dire pourquoi on reste.
Chacun son critère. Et on choisit sa destination aussi selon certains de ces critères. Alors, c'est en Algérie qu'on trouve le plus de retraités français, suivi du Portugal, de l'Espagne, l'Italie, le Maroc et enfin la Belgique. Précisons les règles, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Lorsqu'un retraité s'installe à l'étranger, il continue de percevoir sa pension de retraite française. Il bénéficie toujours de la prise en charge de l'assurance maladie s'il vit dans un pays européen. En dehors de l'UE, ça dépend des conventions signées avec chaque pays. Même chose pour les impôts. Les retraités français qui payent leurs impôts dans leur pays d'accueil, mais là aussi, ça dépend des conventions fiscales signées entre la France et ces pays. Enfin, ces retraités installés à l'étranger sont aussi source de fraude. L'an dernier, l'assurance retraite a contrôlé un peu plus de 1500 pensionnés âgés de 88 ans et plus en Algérie. Résultat, 10% d'entre eux étaient décédés, mais leurs enfants n'avaient pas déclaré le décès. Pour lutter contre ces fraudes, un dispositif biométrique permettant à l'assuré de se filmer pour prouver qu'il est en vie va être bientôt déployé.
Alors, seriez-vous prêt à partir à l'étranger pour passer votre retraite? Fred, je suis désolée, mais vous êtes le plus âgé d'entre nous sur le plateau, donc bien sûr, je suis obligée de me tourner vers vous, parce que vous êtes peut-être le seul à avoir déjà pensé à votre retraite, Fred. L'étranger, le Portugal, l'Espagne, c'est un petit retour en Espagne pour passer vos vieux jours, ça vous tenterait ou pas?
Alors, il faut vraiment ne jamais avoir vécu à l'étranger pour penser pouvoir vivre à l'étranger à la retraite.
Mais pourquoi?
Parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit d'aller vivre dans un pays qu'on ne connaît pas. Alors moi, je pourrais aller en Espagne.
Vous connaissez l'Espagne.
Je connais très bien, mais pour des gens qui ont vécu toute leur vie en France, ils disent, je vais m'installer en Espagne au soleil, à Alicante, je vais m'installer dans l'Algarve au Portugal. En fait, c'est beaucoup plus compliqué.
T'as 2 heures d'avion?
Oui, mais c'est pas comme ça. Vivre à l'étranger, c'est une autre mentalité, c'est autre chose. C'est administrativement tout un système qu'il faut apprendre.
Ça, c'est
vrai. Mais vous pouvez pas imaginer ça. Le système, par exemple, le système espagnol n'a absolument rien à voir, même si c'est le même code civil, parce que c'est le code Napoléon. L'administration, ça n'a absolument rien à voir avec la France. On est totalement paumé. Et ça, c'est vraiment un truc très très important.
Ouais, enfin, quand tu gagnes 2 fois plus, tu peux accepter d'être un peu paumé administrativement.
Mais c'est bien de compliqué, pardon.
Mais parce que le système n'a rien à voir.
Les papiers sont pas les mêmes, tout ça.
C'est le truc, les papiers, l'Espagne s'est décentralisée entre. Tu vois, t'as tes habitudes. Et en plus, je pense que plus tu vieillis, plus les papiers c'est compliqué. Plus, dès qu'il y a une petite merdouille administrative, t'es vite dépassé. On le sait. On voit,
Si c'est juste un problème administratif, franchement,
ça se dépasse. C'est pas que ça. Ensuite, il y a la culture. On ne vit pas, on ne sait pas ce que c'est que de vivre à l'étranger dans une autre culture. C'est autre chose. Vraiment,
Mais l'Espagne, c'est pas hyper différent.
Mais il faut connaître les codes. On n'apprend pas les codes à 65 ans d'un pays. Ou alors on ne s'intègre pas. Dans ce cas-là, on vit dans des résidences où il n'y a que des Français.
Oui, comme au Portugal.
On fait des petites.
Et donc, il y a plein de Français qui vivent très bien au Portugal dans des résidences comme
mais
tu dis.
Mais des Français, ça n'a absolument aucun intérêt parce que tu ne mélanges pas la population.
Ça a aucun intérêt de passer sa retraite au Portugal. Tu ne payes pas d'impôts. Tu vis bien, tu as du soleil, tu manges bien. Excuse-moi.
Tu ne mélanges pas la population, tu n'es pas à l'étranger.
Mais là, ce que tu décris, Fred, c'est pour ceux qui s'installeraient à l'étranger en pleine carrière, faut trouver un boulot, faut mettre les enfants à l'école, etc. Ça, c'est des galères administratives.
J'ai pas envie de vivre dans un ghetto de Français dans un pays étranger.
Voilà. Si c'est au Portugal avec une piscine,
Il y a une question majeure, c'est la question de la santé.
Tu reviens en France, t'as cotisé toute ta vie, donc en fait, tu reviens en France.
Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que même les visites au quotidien, je veux dire, le système espagnol, moi, je suis resté pendant 29 ans.
Oui.
C'est pas la même manière.
Si t'avais eu un gros pépin, tu serais rentré en France?
En fait, j'ai failli crever en Espagne, quoi, quand même.
Oui, mais
j'avais un gros problème de rein et ils l'ont pas vu.
Donc, c'est mon
petit médecin par hasard qu'il a découvert l'infection multirésistante dans mon village. Donc, non, mais c'est-à-dire que. Faites-moi confiance, c'est-à-dire qu'il y a le truc très beau, c'est génial. Vivre à l'étranger, mais. C'est la même chose que je dis pour les personnes âgées. C'est pareil pour les jeunes. C'est une expérience merveilleuse, mais c'est compliqué.
Juliette Briens, vous êtes un peu jeune pour penser à votre retraite, mais est-ce que c'est quand même quelque chose qui vous titille de vous dire que vous irez peut-être passer vos vieux jours au soleil?
Non, je vous cache pas que oui, j'ai un peu de mal à penser à ma retraite.
Oui.
Je comprends le principe. En fait, la retraite, t'as envie de la passer au soleil. Et en France, le soleil, il est trop cher. Parce que le sud de la France, c'est plus possible.
Tu vas y passer à Saint-Tropez, tu vas avoir du mal.
Voilà, donc tu vas chercher du soleil moins cher. Et je le comprends tout à fait. Honnêtement, j'ai du mal à rejoindre Fred sur... Je crois pas que ce soit tant de complications que ça. Moi, je pense que mes parents, ils vont vivre leur retraite dans les Canaries. Franchement, c'est pas si compliqué.
C'est déjà décidé?
Ouais, c'est fait, la maison est achetée, etc.
Ah oui, carrément.
Ouais.
Donc ils sautent le pas.
Ouais, ils sautent le pas. Ils prennent des petits cours d'espagnol, ils baragouinent, petit à petit ça s'améliore. Et puis voilà, effectivement, ils sont pas dans la vie active de gens.
Mais ça veut dire qu'ils s'éloignent de toi.
Oui, mais je suis allée les voir.
Bah oui.
Je serais contente, tu vois, d'aller les voir
au soleil. Ce que dit Charles est important.
C'est vrai. Et donc, c'est pas si compliqué. Tu le vis très bien. Effectivement, t'as pas la même vie que quand t'es encore en travail encore. C'est pas très loin. Il y a des assurances, la carte européenne pour les pépins de santé. Bon, pas si compliqué que ça.
Oui, mais pourquoi tes parents partent?
Pour exactement ça, par plaisir d'être au soleil, mais le sud
et
de la France.
Payer moins d'impôts.
Non.
D'avoir une meilleure qualité de vie.
Oui, parce tout simplement, dans le meilleur des mondes, tout le monde aimerait aller à Uzès, dans une grande villa avec piscine. Simplement, c'est pas possible. Il faut énormément d'argent, quoi. Donc, il y a des endroits en Europe qui sont encore moins chers et qui offrent la possibilité d'un cadre de vie et d'un rythme de vie extrêmement ralenti et merveilleux pour beaucoup moins cher. Pour l'instant, c'est beaucoup moins cher.
Après, ça m'étonne quand même de vos parents. C'est pas très patriotique. Pardon, Juliette Briens, d'aller passer sa retraite à l'étranger. Parce que qui dit passer sa retraite à l'étranger dit qu'en fait, tu ne consommes plus en France. Donc, c'est aussi beaucoup d'argent, qui n'iront pas à l'État, qui n'ira pas.
Ouais, mais je pense que mes parents, ils ont payé des impôts pour trois vies consécutives.
On a plein de retraités anglais.
Je pense
qu'au
niveau de l'argent, ils ont donné ce qu'il fallait.
Il faut le dire, il y a plein de retraités anglais ou américains qui viennent s'installer en France et qui eux viennent.
Alors oui, il y a de toutes les nationalités. Ça, c'est sûr que t'es pas dans un ghetto français. Au contraire, il y a surtout des Anglais et des Allemands.
Vous, est-ce que vous concevez de passer votre retraite à l'étranger, Baptiste Desmontiers? Vous avez énormément voyagé. Donc a priori, vous êtes le mieux placé sur ce plateau pour nous dire quel est le meilleur pays pour passer sa retraite.
Je sais pas, le meilleur pays, j'ai pas réfléchi, mais oui, je pense que ça peut être chouette d'aller à l'étranger. Après, je suis d'accord avec Fred sur un truc, c'est qu'il y a il y a une différence entre aller passer une semaine aux Canaries, je connais pas, je juge pas du tout, et y passer sa vie. Les Canaries, c'est petites îles. Ouais. Madrid, c'est peut-être différent. L'Espagne continentale, c'est différent. J'irai pas m'enterrer dans un petit endroit. J'irai pas non plus dans un pays culturellement trop éloigné de moi, parce que je pense que, en vieillissant, on a peut-être un peu besoin quand même d'avoir des repères. Puis, en tout cas, le dernier truc, c'est, je le ferai bien volontiers, mais pas jusqu'au bout. Si vous avez compris, pas jusqu'à ce qu'on me mette dans la boîte. Parce que je pense que la fin, effectivement, c'est un moment où on a besoin. Ça devient plus compliqué effectivement si mes parents habitaient, mon père est décédé, mais si ma mère habitait très loin et qu'elle avait des pépins de santé, ce serait compliqué pour moi d'aller la voir. Donc je pense qu'à la fin c'est compliqué, mais oui, allez, j'aurai jamais de retraite, moi de toute façon je suis à peu près préparé à ça, mais si mettons qu'à 65 ans je suis encore de celle sur cette terre et que j'ai ma retraite, hop, je vais me passer 5-10 ans à l'étranger, ouais.
Après, alors là, on a plein d'auditeurs qui passent au 32-16, mais je pense que c'est aussi un argument de poids de vivre en Espagne ou au Portugal dans une résidence avec une piscine pour faire venir les enfants et les petits-enfants.
Ah bah,
parce que parfois, t'habites dans certains coins où tes enfants n'ont pas du tout envie de venir te voir, et parfois, c'est plus loin, je veux dire, de te déplacer d'un point A à un point B en France que d'un point A en France
en Espagne et au Portugal. Vacances presque gratuites pour toute la famille.
Exactement, et tout le monde est content de se revoir et ça devient
et d'amener les enfants, les petits-enfants.
La résidence de vacances. Là, je sens que Charles Manier a envie d'envoyer sa mère tout de suite Portugal ou en Espagne.
Allez, maman, direct sur les Canaries. Je suis un peu jaloux.
Lionel est avec nous. Il nous appelle de Marseille. Il est comptable, Lionel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Lionel. Alors, Lionel, vous avez 55 ans, donc vous avez encore 10 ans de boulot devant vous, on va dire. Est-ce que vous envisagez l'après, la retraite à l'étranger?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que chaque année, je visite un pays à l'étranger pour faire mon choix pour la retraite.
Ah, génial. Et vous faites ça depuis quand, Lionel?
Depuis 2 ans. Et il m'en reste encore 7-8 pour visiter le pays qui serait l'idéal pour une retraite éventuelle.
Et vous avez visité quoi comme pays pour l'instant?
Alors, le Portugal, comme vous venez de citer.
Ouais.
Les Philippines, et cette année, ça sera le Vietnam.
Ah d'accord, ah oui, donc c'est très éclectique. Et pour l'instant, le Portugal et les Philippines, ça vous a plu ou pas du tout? Vous ne voyez pas aller là-bas?
Mais le seul but étant la qualité de vie, le coût de la vie.
Ouais.
Pour l'instant, les pays entre guillemets sud-asiatiques, c'est quand même 40 ou 50% de qualité de vie en plus au niveau des revenus. Donc une retraite à 2000, ça fait comme si vous aviez vécu avec 3000 en France, quoi.
Ouais, mais c'est loin là pour le coup, Lionel. Pour les petits enfants et les enfants, c'est compliqué quand même.
Quand on en a pas, c'est plus simple.
Ah oui, évidemment. Bah, c'est sûr. Oui, non, mais d'accord. Ok, donc là, je comprends qu'effectivement, l'Asie du Sud-Est, ce soit sympathique. Mais ça, vous avez quand même des amis, j'imagine, Lionel. Donc, vous coupez quand même de tout le monde.
Oui, le but c'est juste. justement à la retraite ou
vous coupez tout le monde
de se refaire une qualité de vie différente avec en pouvant en profiter plutôt que de se regarder dans le blanc des yeux si on peut pas profiter de la vie.
Bon bah écoutez, génial, merci beaucoup Lionel d'avoir été avec nous. C'est sympa quand même hein, sur ces 10 dernières années de travail de dire on va visiter un pays pour voir où on passera sa retraite. On va voir, c'est la même chose pour Jean-Paul. Jean-Paul, il est boucher, il a 57 ans et il nous appelle de Réalville dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Jean-Paul Boucher, 57 ans. J'imagine que vous bénéficiez de la pénibilité. Vous allez partir en retraite plus tôt, vous ?
Oui, je pars à 60 ans, entre 59 et demi et 60. Parce que j'ai commencé, j'avais 15 ans.
C'est ça. Et donc, c'est très bientôt, Jean-Paul ?
Eh bien, c'est dans 3 ans et demi. Et comme je disais à la personne que j'ai eue au standard, moi, j'ai déjà investi. J'ai acheté un appartement en Espagne.
D'accord.
Et dès ma retraite, mon épouse, ça sera un petit peu plus compliqué parce que mon épouse, elle est enseignante, donc elle a commencé un petit peu plus tard, donc je profiterai un petit peu avant elle.
Ah oui, vous allez la laisser sans elle. La laisser en France et vous partez en Espagne.
Et vous allez où en Espagne ?
Enfin, Jean-Paul.
À côté d'Escala, c'est à Estartit.
Oui, en Catalogne alors.
En Catalogne, voilà, oui. Je suis à peu près à 3 heures de chez moi, 3 heures et demie de chez moi, et donc on y va déjà assez régulièrement, mais après, on s'est aperçu que là-bas déjà l'immobilier est beaucoup moins cher.
C'est sûr.
Et les taxes sont beaucoup moins chères. En France, en taxes foncières et habitation, parce que c'est une maison, un appartement secondaire, je serai à peu près à un peu plus de 3 000, et moi là-bas je payais 150 euros. Voilà.
Ah oui, oui, donc évidemment, ça change tout. Est-ce que vous vendez tout, Jean-Paul, en France ?
Ah oui, je vends tout. Je vends tout et je pousse mes enfants à partir de la France aussi.
D'accord. Et vos enfants, ils vous disent quoi, Jean-Paul ?
Eh bien, justement, j'ai ma fille qui est en train là, de vouloir partir en République dominicaine. Donc, peut-être qu'on gardera ce qu'on a en Espagne et on investira aussi en République dominicaine.
Merci, Jean-Paul. Et puis, bon courage pour la suite de votre vie en Espagne. Votre épouse vous rejoint combien de temps après, quand même, Jean-Paul ?
Eh bien, normalement, moi, ça va, je pense entre 6 et 8 ans après.
Ah, quand même.
C'est des belles vacances.
Une belle récréation.
Elle a l'avantage d'avoir beaucoup de vacances, donc elle pourra me rejoindre souvent.
Oui,
quand même. Ah oui, c'est un joli projet.
Un beau terrain de jeu, là.
Je sens qu'il y a un double projet de vie.
Oui, oui.
Merci Jean-Paul, merci en tout
vous,
cas, d'avoir été avec nous. On embrasse votre épouse.
Oui, qui vient d'apprendre
qui elle aussi aura du temps libre.
Bien sûr. Et puis on a Mika aussi avec nous qui nous appelle d'Elincourt, Sainte-Marguerite dans l'Oise. Bonjour Mika.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Mika. Bah, Mika, il est jeune, 54 ans. Vous pensez déjà à la retraite, Mika ?
Ah oui, oui, absolument. La retraite, pour moi, c'est dans 7 ans, donc oui.
Et en France ou à l'étranger ?
Non, ce sera en France.
D'accord. Vous n'êtes pas tout tenté par un départ ?
Bah, en fait, moi, je pars du principe que les cotisations sociales que je paye, là, actuellement, ce n'est pas un placement. C'est pour payer les retraites des gens qui ont payé les retraites, qui ont travaillé avant moi. Mmh. Et les gens qui travailleront après moi paieront ma retraite. Ce n'est pas un placement. Donc l'argent que je verse, c'est normal de le dépenser en France. Ouais. Voilà.
Oui, mais les gens.
Je le reçois à la retraite.
Oui, mais regardez, Jean-Paul qui vient de nous appeler, il est boucher, il a commencé à 15 ans, il veut aller passer sa retraite en Espagne. Il a cotisé, on ne va pas lui enlever sa retraite parce qu'il passe en Espagne.
Il a payé son dû.
Bien sûr que si. Non. Donc les cotisations sont un placement. Donc on est déjà dans la mentalité d'une retraite par capitalisation à ce moment-là.
Mais pourquoi ?
Oui, mais en fait, il a payé pour les autres, Jean-Paul. Et si ça se trouve, il a payé pour des gens qui sont aussi partis à l'étranger.
Bah oui, mais et alors ? La question ne s'est pas posée quand Jean-Paul payait. Ou quand Jean-Paul paye. La question se pose maintenant. La question que vous vous posez, c'est maintenant.
D'accord.
Donc maintenant, le retraité qui part à l'étranger, je ne lui verse pas sa pension. S'il veut sa pension, il reste en France.
La question peut se poser, hein. Franchement, moi, je trouve que la réflexion de Michel est très intelligente.
Je comprends ça.
Oui, parce que la consommation.
Pas du tout. Enfin, quand t'as cotisé,
toute ta vie.
Alors après Estelle, il faut revaloriser les pensions. Ça, c'est clairement, il faut revaloriser les pensions. Maintenant, on peut pas tout faire. Et j'en suis le premier, désolé, parce que je verse 10% de mon salaire à ma maman, qui touche une retraite de misère.
D'accord.
Voilà. Tous les mois. Donc, il faut revaloriser les pensions. Mais pour faire ça, bah, il faut un petit peu d'équité fiscale. Et quand on arrêtera de prendre 80 milliards de la TVA pour la verser sur les comptes sociaux parce que on a besoin d'allègement de charges sociales pour les patrons, parce qu'il faut verser des dividendes à Bernard Arnault.
Oui, alors là on change un peu. Non, mais si on change un peu de dossier, Mika. Mais ce que vous dites en tout cas, c'est que pour vous, un retraité qui part à l'étranger, allez hop, plus de pension, on supprime bah, par patriotisme aussi. On peut aussi passer sa retraite en France. La majorité des retraités.
Mais il y a rien d'antipatriote à faire ça.
Hein, un peu quand même.
Que toute ta vie active, tu l'as passée en France, à payer des impôts en France et à cotiser en France pour la génération de la retraite donc d'avant. Je ne vois pas en quoi tu es antipatriotique. Quand tu décides de passer
parce que tu vas aller
à l'étranger, enfin,
tu vas aller payer des impôts ailleurs, tu vas aller consommer ailleurs.
On va faire payer des impôts aux retraités qui partent avec une pension française.
Ils ont cotisé. Attendez, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur les pensions de retraite, les boomers et tutti quanti. Vous le savez très bien, mais là je ne vois pas le rapport en fait. À un moment donné. Si toute ta vie tu l'as passée en France, à travailler en France et à cotiser pour ta retraite, pour la retraite, voilà, vous savez comment ça marche. Je ne vois pas le rapport. Du tout.
Alors, est-ce que vous êtes prêt à partir à l'étranger pour votre retraite? Vous avez dit oui à 63%.
RMC, Estelle Midi.
Tu préfères?
Pas facile. Tu préfères confiture ou Nutella, Fred Hermel?
Confiture.
Bon, j'en étais sûr.
Ben oui. Alors, j'aime bien le Nutella. Hein, j'ai pas. Voilà. mais Nutella, bah, c'est du Nutella. La confiture.
Merci, confiture.
T'as un Nutella. Oui. Confiture, t'as toutes les sortes possibles.
Et alors?
Ah oui. Bah, c'est génial parce qu'à un moment, moi, je prends de la confiture le matin. Donc,
alors, je suis sûre que vous êtes du genre à prendre de la confiture, genre orange amère.
Mais c'est ma préférée. C'est la meilleure
confiture. Marmelade.
L'orange amère, je trouve ça extraordinaire.
Ah, mais ça m'étonne pas.
C'est bon aussi.
Vous pouvez prendre figue aussi.
Figue, mais
bien sûr.
J'adore figue.
Et là,
en fait, il y a une marque qui fait des moins de sucre qui s'appelle Intense, donc qui est un peu plus amer.
Ah oui.
Et donc, vous avez par exemple de la framboise ou de l'abricot un petit peu amer, c'est super bon.
Ah bon.
L'orange amer, c'est exceptionnel.
Oh. Enfin, confiture d'orange. Pour manger ça, quoi.
Ah ouais, c'est merveilleux.
Nutella, j'imagine.
Non, pas du tout. Je prends confiture, mais beaucoup moins chiante que Fred. Moi, c'est vraiment mes confitures de framboise. Bonne maman. Bonne maman. Avec les petits morceaux là qui sont incroyables. Je préfère la confiture.
T'en as plein les dents à la fin. T'es obligé d'aller chercher une recette.
Mais oui. Mais je la prends parce que en fait, elle te donne pas le même sentiment que le Nutella. C'est-à-dire que le Nutella, 95% des fois où tu manges du Nutella, t'as un sentiment de regret immédiat pratiquement après.
Ah non.
Alors que la confiture, ça te donne un sentiment de plaisir. Là où le Nutella est vraiment justifié à tous les niveaux, c'est dans les crêpes. Nutella ne sera jamais égalée par la crêpe confiture.
Hein,
mais pour le manger avec du pain, pain confiture, c'est quand même plus sain.
C'est l'enfance aussi.
C'est plus sain.
Voilà. Ouais, mais la texture du Nutella, ça fond dans la bouche et tout. Ouais. Baptiste Desmontiers.
Je vais vous décevoir, moi je suis team confiture aussi. Parce que j'ai des enfants et que du coup je me suis fait un peu tordre le bras. Pâte à tartiner, mais pas Nutella.
Ah non.
Je suis un peu chauvin.
Ah, il va prendre un autre chiot.
Je sais même pas ce que je vais dire.
Le basquela,
il est pas plus cher. Pays basque, basquela. Et je peux vous assurer, il n'y a pas des saloperies d'huile de palme, même s'ils disent qu'il y en a moins.
Ouais,
il y a moins de sucre. Non, les goûts et les couleurs, c'est assez disputable pour le coup, mais c'est le seul qui, du coup, ma mère me le ramène du Pays basque régulièrement, et c'est le seul que j'ai à la maison. Mais confiture sans ça, et je la fais.
Heureusement que Charles
est
Nutella.
Charles, il est tout Nutella.
Ouais, moi aussi,
vous pouvez tout apporter. Charlie, il est sucre. Oui, voilà. Tout simplement. Et on vous a posé la question sur nos réseaux Nutella ou confiture. Ça a été extrêmement serré. La bataille a fait rage, mais c'est la confiture qui l'emporte.
Ouais. RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi. RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
C'est la deuxième partie du best-of d'Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 14h aujourd'hui. Et tout de suite, on va parler de santé. Faut-il faire payer plus cher les riches? On parlera également de bien-être animal. Faut-il en finir avec les aquariums? Et puis, des plages privées payantes. C'est de saison. Est-ce génial ou scandaleux? La deuxième partie de ce best-of, c'est tout de suite. on va s'intéresser à l'idée du jour. Et cette idée, c'est celle de Nicolas Dufourcq, le directeur général de la BPI, la Banque publique d'investissement. Et Nicolas Dufourcq, eh bien, il souhaiterait que les Français les plus aisés payent plus cher leurs frais de santé, leurs médicaments ou encore leurs consultations médicales. Pour lui, c'est la meilleure solution pour sauver notre système de santé. Écoutez.
Le point GPS qui a été fixé par la société française qui l'a demandé à sa classe politique, c'était le remboursement à 100% de tout. Bien. Et on y est quasiment arrivé puisqu'on a le reste à charge le plus faible d'Europe. Donc du monde. Hein, on est le pays le plus généreux du monde en termes de reste à charge. Et sauf que les dépenses de maladie galopent dans des proportions aujourd'hui totalement hors de contrôle. Il faut réformer ce système-là. Il faut rétablir, pour ceux qui peuvent se le permettre, hein, si vous avez les moyens en revenus ou même peut-être d'ailleurs en patrimoine, vous devez pouvoir payer un reste à charge.
Alors, faire payer plus cher les riches en matière de santé, l'idée n'est pas nouvelle, hein, Charles.
Non, l'an dernier, c'est même la Cour des comptes qui publiait un rapport sur ce qu'on appelle le bouclier sanitaire, c'est-à-dire le modèle allemand. Selon ce modèle, rien ne change pour les affections longue durée, la prise en charge reste la même pour tous les assurés, mais pour le reste, pour les dépenses de santé courantes, la consultation chez le médecin généraliste, les médicaments, eh bien là, tout le monde ne serait pas remboursé de la même manière. La Cour prenait un exemple. En France, imaginons aujourd'hui une boîte de médicaments à 10 euros que la Sécurité sociale rembourserait à 8 euros. Tout le monde aurait un reste à charge de 2 euros, peu importe ses revenus. Mais avec un système de bouclier sanitaire, sur cette même boîte à 10 euros, la Sécu rembourserait les 10 euros pour les plus modestes, pour les plus pauvres, mais seulement 7 euros pour les plus riches. Une manière, selon la Cour des comptes, de limiter les disparités de reste à charge entre les assurés et de permettre un pilotage beaucoup plus fin des dépenses de santé, se traduisant par une diminution des dépenses publiques.
Mais les riches paieraient toujours plus de cotisations, où toutes les cotisations seraient égales?
Ah non, on ne touche pas au système de cotisations. Ah, oui.
Alors, faut-il faire payer plus cher les riches en matière de santé, consultation médicale ou encore médicaments, Benjamin Hamard?
Mais certainement pas. Certainement pas, parce que s'attaquer à ça, c'est s'attaquer aux règles du système. Le système de la sécurité sociale, c'est un système de solidarité nationale. Vous mettez en place ça, et ben vous agrandissez, vous élargissez le sentiment, l'adhésion de certains à ce modèle. C'est certainement pas, il y a aucune raison de modifier les règles du système, et je pense que c'est totalement pernicieux, et c'est une manière en fait de saboter l'adhésion à la sécurité sociale. Et vous savez, il y a un certain nombre de gens qui sont des libéraux complets, qui réfléchissent en fonction de ça dans la tête. On a des leviers, on a un problème de recettes. Un problème de recettes. Et donc, on peut faire des tas de choses. Gagner l'égalité salariale femmes-hommes, c'est quand même pas un truc qui devrait faire bien débat, sûr. Ça. Ça apporterait 6 milliards dans les caisses de la Sécu. Lutter contre le travail illégal, ça apporterait 6 milliards dans les caisses de la Sécu. On a effectivement, par exemple, l'élargissement de l'assiette, c'est-à-dire, élargir à l'assiette de cotisation la participation, l'intéressement, là aussi ça apporte des milliards. Mais venir dire il faut que les riches soient moins bien remboursés, c'est fracturer cette règle universelle de la sécurité sociale. Et on a perdu du terrain sur la question de l'adhésion à la sécurité sociale. Il y a des tas de gens qui ne connaissent pas en fait cette révolution qui a eu lieu en 1945 et qui s'en détachent. C'est la meilleure manière de faire grandir cette colère contre la sécurité sociale. Donc moi, vous voyez, je suis pas pour les solutions simplistes, et il s'agit pas de raconter n'importe quoi. Ce monsieur, je l'ai déjà entendu, il dit des choses inacceptables sur la sécurité sociale. Ça, c'est inacceptable.
D'accord. Voilà. Charles, alors justement, la question qu'on veut se poser, parce que on a souvent entendu des histoires de Français qui essayaient, je pense, de sortir de la sécurité sociale parce qu'ils considèrent que ils sont pas souvent malades, qu'ils payent beaucoup trop, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est légal de sortir de la sécurité sociale? Est-ce que les riches pourraient dire, par exemple, moi si je paye plus cher, je cotise déjà plus, si je paye plus cher mes médicaments, je sors. Est-ce que ça c'est possible?
Je vais vous décevoir, Estelle, mais on va devoir rester solidaires.
C'est
la Constitution de 1958. La Constitution rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale, et surtout l'obligation pour toutes les personnes travaillant en France de s'affilier et de s'acquitter des cotisations qui assurent le fonctionnement de la sécurité sociale. Ça concerne aussi bien les salariés que les indépendants. Tout le monde doit être affilié à la sécurité sociale et donc y cotiser. Certains ont déjà tenté justement d'en sortir. À chaque fois, la jurisprudence de la justice a toujours obligé les assurés à se réaffilier à la sécurité sociale. La jurisprudence est constante. constante dans ce sens.
Donc légalement, on doit être affilié à la sécurité sociale. Élise Goldfarb, est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que les riches payent plus cher leurs médicaments ou encore les consultations? Est-ce que vous, si on vous disait, vous gagnez bien votre vie, Élise, si on vous disait ça, est-ce que vous diriez oh bah oui, y a pas de problème?
Ben moi, je pense que ça me poserait pas de problème. Parce qu'en fait, j'ai une hernie discale en ce moment. Et la semaine dernière, je suis allée chez le radiologue faire un IRM. Et en fait, je me suis rendu compte que l'IRM allait quand même me coûter 200 euros.
Oui.
Ok. Moi, j'ai les moyens de les payer. Mais la personne qui était avant moi dans la queue ne pouvait pas payer 200 euros.
Ne pouvait pas avancer.
Ne pouvait pas les avancer, ces frais-là. Et d'ailleurs, c'était du reste à charge. Enfin, c'est pas des frais qu'elle va pas, il va pas se faire rembourser beaucoup sur les 200 euros. Donc, ça va quand même lui coûter bien 150. Enfin, faut que je.
Oui, bon.
Sur ma facture, en tout cas, ça me coûtait. Je ne pouvais pas rembourser beaucoup. Donc, je me dis, on pourrait peut-être trouver un équilibre pour que ces personnes-là puissent quand même bénéficier des soins, parce que ça fait renoncer beaucoup de gens aux soins. Je connais beaucoup de gens qui ont les dents pourries, qui ont des problèmes de dos.
Quand tu es à la CMU, les soins te sont prodigués, en fait. Quand tu es malade, tu vas chez le médecin, et bien sûr, la CMU, l'AME, tu as un système en France qui est très bien fait.
T'as des gens qui sont entre les seuils. T'as des gens qui sont au milieu de tous ces seuils pour bénéficier.
Mais ils sont remboursés aussi, hein. Le plafond, c'est 50 euros par an. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas payer plus de 50 euros par an de médicaments. Donc, pardon.
Mais toi, ça te dérangerait pas de payer plus, mais il y a des tas de gens que ça va déranger.
Mais parce que, aussi, je paye très cher une mutuelle. Et donc, peut-être que les mutuelles pourraient aussi mieux rembourser pour qu'on crée un équilibre et que finalement, les personnes qui vont payer plus cher, le reste à charge, de toute façon, il y a quand même une petite compensation côté mutuelle.
Mais alors à quoi ça sert? Non mais enfin à un moment
La mutuelle, c'est pas la sécu. Moi ma mutuelle, je la paye, je rembourse pas le trou de la sécu avec.
Non, mais ce que je veux dire, c'est d'accord, mais enfin à un moment c'est l'universalité en fait de la sécurité sociale.
Oui, je suis d'accord,
c'est compliqué de dire à quelqu'un tu cotises déjà plus mais en plus tu vas payer plus cher tes médicaments. La personne à un moment elle va se dire évidemment que financièrement tu peux,
moi j'ai les moyens,
mais philosophiquement c'est pas financièrement.
Payer 7 euros, 8 euros
autour de cette table, on peut tous payer 1 euro de plus par boîte de médicaments, il y a pas de problème. Mais philosophiquement,
et renforcer le rôle des mutuelles par rapport à la sécu, c'est un vrai souci, hein.
Bah oui, évidemment, t'as raison, parce que tu renforces le privé par rapport à un système public. Mais toi, tu dis que c'est pas une mauvaise idée, en tout cas, Lise.
Dans les faits, je vois en tout cas que il y a des gens qui ne se soignent pas en France parce que c'est encore cher pour eux.
Non, ils pourraient se soigner. Tout le monde peut se soigner, puisque avec la CMU, si tu vas, par exemple, faire des analyses médicales, tu paieras zéro, en fait. Voilà, c'est comme
ça. Mais moi, si je vais faire des analyses médicales, ça me coûtera zéro.
Le médecin conventionné. Évidemment, si tu vas voir un médecin non conventionné,
faut en trouver avant de.
Mais là, à chaque fois, tu mets des si. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu peux être bien soigné.
En tout cas, ça traduit. Oui, non, mais attends.
On a
les meilleurs soins du monde en France.
Et ça ne coûte pas d'argent.
Je les aime. Et parfois, quand je vais chez le médecin et que je vois que c'est gratuit, je me dis mais c'est incroyable, c'est génial. Quand même.
Je vais me permettre d'être un peu grave. Jamais, je vous jure que jamais, je ne pensais entendre ça dans le pays dans lequel j'ai grandi. Mais c'est toute la société, c'est tout ce qui est le fondement de la République qui est mis en cause avec ça. Notre République s'est construite sur l'universalité.
Oui, c'est vrai.
Mais on se rend pas compte, en fait. Et merci, Benjamin, parce que toi, t'es un vrai mec de gauche. Parce que t'es un vrai mec de gauche. Parce que tu sais le danger qu'il y a derrière. Le danger qu'il y a derrière. Mais ces gens-là, ce sont des agents des assurances privées. C'est de faire sauter le système de sécurité sociale pour qu'un jour les gens se disent ah bah moi maintenant à l'américaine, maintenant moi je me finance tout seul,
je paye pour mes soins.
Ah mais bien sûr, hein. Voilà et c'est très grave, mais ça commence par ça. Et c'est le début. Et après, ça sera l'éducation. L'éducation, c'est déjà un peu comme ça. Ça et ça et ça. Et c'est fini. Et la République, c'est fini. Voilà. Ces gens-là, ce monsieur-là, ce sont des ennemis de la République. Ce sont des ennemis de la France. Ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Moi, ça me gêne pas. Moi, je gagne bien ma vie. Je suis tout seul sur ma sécu en plus. J'ai pas d'enfants, etc. Donc, moi, je suis. Et puis, comme j'ai la chance, je touche du bois, de pas être trop malade. Hein, moi, je suis très rentable. Mais on n'a pas le droit de faire ça. C'est la République qui s'effondre. C'est ce qui a fait cette République il y a 200 ans qui s'effondre. On n'a pas le droit. J'ai honte quand j'entends ça. J'ai honte.
Après, la Cour des comptes avait
fait la même... Mais j'ai honte aussi de ça. Mais ces gens-là, ils me font honte aussi. Mais ils me font honte aussi de ces gens-là.
Je peux répondre deux petites choses. Régulièrement, à la même place que Fred, il y a Daniel Riolo sur ce plateau qui nous dit, je comprends pas, on est le seul pays du monde à avoir la sécu. Pourquoi personne nous a copié? Pourquoi personne copie ce fantastique modèle social français qui est l'essence même de la France, mais qui coule? Là, c'est 70 milliards de dépenses en plus depuis 2020. C'est-à-dire, et notamment en grande partie, c'est ce qu'explique d'ailleurs Nicolas Dufourcq de la BPI, à cause des arrêts maladie de plus en plus nombreux, de plus en plus coûteux, ce système qu'on adore tous ici, on est tous fiers même, c'est une fierté française, la sécurité sociale, il est en train de mourir sous nos yeux là.
Oui, enfin, il oublie des choses pour ses explications.
Mais c'est pour ça que moi je suis surpris.
Il explique avec. Il est en train de me dire qu'il n'y a pas de trou de la sécurité.
Non, mais moi je suis pour une réforme.
Mais on peut en parler.
Justement, Charles, moi je suis pour une réforme, justement pour le sauver. Mais là, c'est pas une réforme,
bien sûr.
C'est une mise à un changement de philosophie.
Et pardon, mais François Hollande, lors de son mandat, est revenu sur l'universalité des allocations familiales. On voit où on en est aujourd'hui.
Exactement.
Avec la baisse de la natalité.
Ben voilà.
Alors, c'est pas que de la faute de François Hollande, mais ça a commencé à ce moment-là.
Il oublie de nommer, par exemple, l'exonération des cotisations. Il n'en dit pas un mot. C'est étonnant. Mais le diagnostic, je veux bien qu'on en débatte.
Mais dès qu'on dit qu'il y a 70 milliards de trous, là, en plus, dans la Sécu, donc il faut peut-être toucher aux arrêts maladie, etc., peut-être au remboursement. On a parlé des franchises médicales, là aussi, le gouvernement.
Et les jours de carence, il est rigolo, les jours de carence, voilà. Ça n'a pas été mis en place.
Bah, en tout cas, dès qu'il y a une mesure qui veut toucher au sacro-saint modèle de la sécu française qui est en train de couler sous nos yeux, tout le monde dit ah non, pas touche à la sécu, laissez le bateau couler, regardons-le couler.
Moi, je t'ai donné tout à l'heure des chiffres sur la question des recettes. Comment faire venir de l'argent? Eh oui, est-ce que tu m'as entendu parler de l'augmentation des cotisations? Je ne crois pas. Je t'ai donné d'autres pistes. Il y a des pistes.
Et tu peux lutter contre les abus aussi, abus de médicaments. Abus de consultation chez le médecin, abus d'arrêt maladie, etc. pour faire rentrer aussi de l'argent dans les caisses. Guillaume est avec nous, il est chef d'entreprise à Clichy. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Guillaume, est-ce que vous vous considérez comme un Français aisé, Guillaume ?
Non, je suis chef d'entreprise, j'ai 7 personnes qui travaillent pour moi, je gagne modestement, correctement de ma vie, mais je ne suis pas un Français aisé.
Et est-ce que vous verriez un inconvénient, Guillaume, à ce que les Français les plus aisés payent un petit peu plus pour leurs frais de santé?
Ah mais c'est scandaleux, c'est la chose la plus scandaleuse que j'ai entendue depuis des années. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va déjà qu'il y a à peine un foyer sur deux en France qui paye ses impôts. Donc en fait, il y a la moitié de la France qui fait bouffer l'autre moitié. On va aller dire à ceux qui payent en plus que maintenant ils seront moins remboursés que leurs petits copains qui bouffent grâce à eux. Enfin, je veux dire, c'est fondamentalement, vous avez parlé d'universalisme, d'égalité, etc. Enfin, on touche à ce qui fait le ciment de la nation. Donc, en fait, on pille une petite partie des Français, mais en plus, on va dire maintenant que eux, ils seront moins bien remboursés. Ça peut pas marcher. Un jour, ces gens-là vont partir, et on fera comment?
Oui, c'est un peu comme. C'est un peu comme de dire à quelqu'un qui paye plus cher la crèche parce qu'il est aisé, bah tiens, le lait qu'on va mettre dans le biberon de ton gamin, tu vas le payer aussi plus cher. Enfin, il y a un moment où c'est pas possible.
Déjà le cas, on paye plus cher la crèche.
Tu payes plus cher la crèche, mais en revanche, tu payes pas plus cher le lait. C'est-à-dire que le lait, c'est le même prix pour tout le monde. Tu vois.
Mais c'est méconnaître complètement l'histoire et le fonctionnement de la sécurité sociale. Proposer ça, c'est véritablement, en fait, s'essuyer les pieds sur l'histoire et le fonctionnement de la sécurité sociale.
Mais moi, je paye la cantine 5 fois plus cher que d'autres gamins de la classe.
Mais
ça vous paraît normal?
Mais Charles, justement,
ne paye pas la même chose selon ses revenus.
Mais l'école, tu la payes pas.
Le fonctionnement de la cantine et la sécu, c'est deux choses différentes.
Non, mais il y a une valeur d'universalité à l'école aussi.
Non, mais attends, excuse-moi, je suis désolé. Là, tu confonds deux choses. La sécurité sociale telle qu'elle est créée en France en 45, c'est pas comme le fonctionnement de la cantine. Et c'est ça qu'il faut mettre au cœur du débat. C'est sur cette confusion-là que lui, cet homme-là, qui lui sait très bien quelle est l'histoire de la sécu, c'est sur cette confusion-là et ce populisme-là qui fait cette proposition.
Donc
la sécu, c'est à chacun selon ses besoins. Et effectivement, on fonctionne de manière, tu cotises et tu as les mêmes droits. Et si tu commences à mettre cette idée des revenus dans la machine, tu pourris tout le logiciel. Parce qu'après, tu pourras aller faire des propositions beaucoup plus régressives sur les milieux les plus populaires en arguant que maintenant, c'est plus universel.
Et tu vas avoir des gens qui vont partir, Charles.
Bien sûr.
Tu vas avoir des gens qui vont partir.
C'est de ce dont je parlais quand je disais de ce lien d'adhésion. C'est l'adhésion. Parce qu'après, il y a des gens qui vont vouloir quitter la sécurité sociale sur cette base-là.
Mais aujourd'hui, le vrai problème de la sécurité sociale, et c'est ce que disait Guillaume, c'est que tout le monde ne cotise pas de la même manière. C'est déjà inégalitaire. Il y a déjà des gens qui cotisent
pas
plus que d'autres. L'écart entre le net et le brut, c'est aussi le fait qu'on demande aux plus riches de cotiser beaucoup plus.
Oui.
C'est déjà inégalitaire par principe.
Mais ils ne cotisent pas de la
même manière. Oui, on cotise différemment, mais le rendu est le même pour tout le monde. Moi, ça me gêne pas de cause. C'est-à-dire que moi, je suis, quand je serai soigné exactement de la même manière que quelqu'un qui gagne moins que moi, bien sûr. Et voilà, c'est ça. Moi, ça me gêne pas de participer plus.
C'est ça l'universalité. Moi, d'entendre qu'en 2025, on ne doit surtout pas toucher à un truc de 1945 au monde de cette histoire. C'est la France. On ne va pas l'adapter au monde d'aujourd'hui.
Si tu touches à tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir des riches, entre guillemets, qui vont se dire, alors là, ça, c'est la ligne rouge. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je veux bien payer plus d'impôts. Je veux bien payer plus cher la cantine. Je veux bien. Mais en revanche, en fait, cotiser plus. Pour finalement payer encore plus cher tes médicaments, cotiser plus pour payer plus, ouais, ça c'est il y a un truc qui va pas quoi en fait.
Effectivement le système de la cotisation, il fonctionne tel qu'il fonctionne, mais le rendu, comme le disait Fred, il doit être justement universel.
Un piège en France, c'est le sentiment que la santé c'est gratuit. Et pour en revenir tout à l'heure, on parlait des
gratuit.
Animaux.
Mais c'est pas gratuit.
Si, ça donne ce sentiment. Non. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'avec la carte vitale, on se fait tout rembourser.
Ben, il y a la cotisation.
Les médicaments, c'est gratuit. Qu'aller chez le médecin, c'est gratuit.
Regarde ta feuille de paye, c'est gratuit.
Mais la carte vitale, c'est pas une carte magique. Elle fonctionne avec les cotisations.
Évidemment.
Et bien, c'est ça qu'il faudrait expliquer aux gens.
Ils sont en train de changer d'avis.
Ben oui. Et voilà. Merci en tout cas, Guillaume. Voilà, Guillaume qui est contre cette proposition du président, du vice-président, pardon, de la BPI. Ça donne quoi sur le WhatsApp, Charles?
Félix qui nous dit la devise en France, c'est liberté, égalité. Fraternité, donc pas logique que certains ne soient pas remboursés de la même manière que les autres. Ali à l'inverse dit, moi je gagne très bien ma vie aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre, donc si je devais faire un petit effort en plus pour mes médicaments, ça ne me dérangerait pas du tout. Au nom de la solidarité nationale, nous écrit Ali. On vous a posé la question d'ailleurs, en matière de santé, faut-il faire payer plus cher les riches? Vous avez répondu non à 70%, Benjamin.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser à la pétition du jour. Cette pétition, c'est celle de deux associations de défense des animaux qui demandent la fermeture de l'aquarium à requins d'un Leclerc. Cette pétition a déjà récolté 20 000 signatures. Alors c'est vrai qu'on peut évidemment s'interroger sur la pertinence de maintenir des animaux en captivité dans un centre commercial, mais plus globalement, Charles, également sur la survie des aquariums publics.
Oui, l'association PAS est en pointe dans ce combat contre l'aquarium à requins du centre commercial d'Ajaccio, donc, mais aussi contre d'autres aquariums. L'association réclame la fermeture de l'aquarium de Nancy ou encore celui de la Porte Dorée à Paris. 4000 animaux aquatiques y sont emprisonnés, peut-on lire sur le site de l'association. Cette privation de liberté est injustifiable. Les animaux sont transformés en objets de divertissement, qu'ils soient nés ou non en captivité. Les animaux n'ont rien à faire dans des cages vitrées. Autre association mobilisée pour la défense du bien-être des poissons, Sea Shepherd, qui a obtenu il y a quelques mois l'interdiction par la justice des soirées dansantes qui étaient organisées à l'aquarium de Paris, au Trocadéro.
J'allais en boîte là-bas, moi.
Voilà.
Toute mon adolescence, j'étais en boîte de nuit. Ça s'appelait comment? L'Ozou.
Mais avec des poissons, de donc ils pouvaient pas dormir, quoi.
Prenez des tables comme ça, comme des petits gosses de riches.
Ah d'accord. Bon, mais
dans les poissons.
Enfin, je ne savais pas que ça existait.
Pour répondre à une dernière question que m'a posée Estelle ce matin, il est aujourd'hui formellement interdit, et ce depuis 4 ans maintenant, de faire gagner des poissons rouges lors d'une fête foraine ou d'une kermesse, et d'ailleurs tout autre animal, et ne peut pas être un lot dans n'importe quel concours en France.
Alors, faut-il en finir avec les aquariums publics, Élise Goldfarb?
Bien, évidemment. Pour moi, les zoos et les aquariums, c'est vraiment un défaut de l'homme. Je vois vraiment des trucs de un mec en mode ouba, je veux dominer la nature. C'est-à-dire que je ne comprends pas l'intérêt, en fait, de vouloir mettre en cage des animaux qui, en fait, un poisson et même un requin. Enfin, vous avez vu tous le monde de Nemo, non?
Oui.
Eh ben, il y a des courants migratoires. Ils ont besoin de se déplacer dans des grands espaces, les animaux marins. On ne va pas les, en fait, je comprends pas l'intérêt de les mettre en cage.
L'intérêt.
Mais bon, c'est autour de ces animaux. Je pense que je suis la seule qui a un animal.
Les poissons sont rarement en cage, mais ils sont plutôt derrière des vitres, sinon ça ne passerait pas. Mais à un moment, il y a aussi, par exemple, pour les aquariums dans les grandes villes, l'idée que les petits urbains, ils puissent aller voir des poissons autrement qu'en
market. Moi, je pense qu'on peut trouver un équilibre, créer comme des endroits de conservation, comme des réserves. Donc on va dire qui serait pas dans Paris ou dans les grandes villes.
On l'appellerait Marineland.
Non mais vous êtes déjà allé à Marineland. Moi j'ai grandi, j'allais voir ma grand-mère à Cannes, on allait à Marineland. Enfin, c'était horrible, c'est-à-dire qu'on était tous en spectacle à regarder, des otaries et des orques faire le show. C'est pas normal, c'est pas dans la nature de leur existence.
Oui, mais les poissons, on leur demande pas de faire un show, on leur demande d'être dans l'aquarium, ils mangent des
Mais oui, mais en fait, c'est une détresse psychologique pour un animal, on a découvert clair que les poissons, les mmh. animaux, même marins, oui. ont des consciences comme les animaux.
Oui, alors là,
si tu les enfermes, mais c'est une réalité. Si tu les enfermes, non seulement ils deviennent dangereux, il y a un potentiel de dangerosité.
Un poisson rouge peut être dangereux.
Non, mais un poisson rouge, c'est pas, on parle pas d'un poisson rouge, là, on parle d'un aquarium public. Il y a pas de poisson rouge dans les aquariums publics. T'as des poissons rares, t'as des requins, justement. Là, le sujet, c'est un requin dans un Leclerc. Est-ce que l'humain a besoin à ce point-là de dominer la nature au point qu'il lui faut un requin derrière une vitre oui, dans son supermarché?
Les enfants qui vont au Leclerc, ils sont contents de voir des
mais
requins.
J'en ai
ils
rien
ont
à faire. Des enfants qui sont contents, s'ils veulent être contents, ils regardent Dora l'exploratrice à la télé ou Ladybug et voilà. Et c'est un super dessin animé, ils seront contents. Si ils veulent voir des animaux marins ou des animaux sauvages, ce que je recommande moi, c'est qu'on crée des espaces de conservation parce que il y a besoin de conserver certaines espèces animales qui sont en voie de disparition.
D'accord.
Donc créons des espaces de conservation où ils ont des enclos géants où on sait qu'ils sont là pour des raisons biologiques et scientifiques, pas pour être dans un parc d'attractions. C'est des parcs d'attractions. Hein,
après, il y a des aquariums extraordinaires, celui de Brest, c'est absolument incroyable. Et effectivement, les espaces où il y a des poissons sont très grands. Fred Hermel, on fait quoi des aquariums publics?
Bon, déjà, je voudrais m'excuser et reconnaître. Je vais vous avouer que j'ai eu un poisson rouge.
Bah, moi aussi, j'en ai eu plein. Voilà, mais ils ont tous terminé au même endroit. Rouge,
donc, je ne savais pas que il allait devenir une bête méchante parce que je l'ai torturé, parce que je l'avais enfermé. C'était un petit bocal, hein. C'était pas grand chose. Donc, non, mais on va se calmer un peu, quoi. Alors, ces espèces de conservation, bah, justement, quand tu connais Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, en fait, ces espèces de conservation sont aussi financés par les visiteurs. C'est-à-dire le fait que ce soit un musée ouvert où les gens payent, etc. Ben ça permet justement de conserver ces poissons. Alors je trouve un peu ridicule dans un Leclerc, ça on est d'accord. Mais franchement, non, mais... je vois moi chez moi Nausicaa Boulogne-sur-Mer, c'est exceptionnel. Donc il faut des règles bien entendu, mais dans ce cas-là,
c'est une boîte de nuit. Hein.
Oui, ben ça c'est pas normal.
Voilà,
c'est pas normal, mais c'est pas normal.
Enfin, moi, j'ai amené mes enfants, quand ils étaient petits, je les ai amenés, mais je sais pas combien de fois, dès qu'il pleuvait, on allait à l'aquarium. Tu vois,
il y a tellement deux, contents. Il y a un
pour
an, je suis allée à un after show. Je suis allée à un after show de Fashion Week à l'aquarium.
Mais ça, c'est pas normal.
Mais ça, fait la fête avec les méduses. Ça n'a aucun sens.
Ça, oui, mais c'est pas normal. Mais
ça n'a aucun sens.
En même temps, t'es pas obligé d'y aller. Enfin, moi, si je suis pour une cause animale, je vais pas aller faire la fête dans un aquarium. C'est tout.
Et puis après, dans ce cas-là, parce que faut faire très attention avec tous ces débats sur les animaux. Attention, parce qu'à un moment, on va se poser la question des animaux de compagnie. Est-ce qu'un chien peut être dans un appartement?
Bah bien sûr que
Non,
mais
c'est pareil, un chien c'est un animal domestique.
Oui, bah
un requin c'est pas un animal domestique.
Oui, bah, enfin excuse-moi, mais si on se pose la question de savoir si on peut enfermer des poissons dans des aquariums, on peut se poser la question de savoir si c'est normal qu'un berger allemand, et j'en vois dans la rue, soit dans un appartement de 50 km de
en même temps, non, mais les chevaux, un chihuahua en liberté à la campagne, à mon avis, il reste pas longtemps.
Oui, c'est bouffé par
Moi,
je veux bien, mais en tout cas, il faut avoir une réflexion sur tout le monde. Et là, vous savez combien il y a d'animaux de compagnie en France? Il y a 75 millions.
Oui, parce qu'on compte les poissons.
Non, sans les poissons. Ah oui,
on compte les poissons.
Ah bah oui, alors.
Et la personne qui a un aquarium, elle a déjà 45 animaux dans l'aquarium. Benjamin Hamard, est-ce que vous aussi, vous vous dites, quand même, il faudrait quand même avoir une réflexion sur ces espaces. Je veux dire, on n'en parle que les animaux.
Non, mais le débat a permis de décanter pas mal de choses, quand même. Il est évident. Enfin, moi, imaginons, je rentre dans le centre commercial en Corse, là, et je me retrouve, avant d'aller faire mes courses, devant un requin marteau. Enfin, clairement, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit?
Ouais. Donc, mais tu restes quand même devant pendant 2 minutes à regarder.
Oui,
au niveau commercial, ça doit marcher. Moi, si je suis avec les enfants dans la voiture et qu'on hésite entre le Leclerc et l'Intermarché, et que je sais qu'au Leclerc, il y a les requins.
Et c'est sans doute la raison d'être. Bah c'est sans doute la raison d'être du truc. Et c'est pour ça que c'est problématique. Mais il faut distinguer ces endroits, ces boîtes de nuit ou ces centres commerciaux où on a ce type d'aquarium, où là, pour le coup, on n'est pas du tout dans une approche éducative ou parce que c'est vrai que l'aquarium, moi, quand j'étais gamin, je me souviens que j'aimais y aller parce que c'était un lieu d'éducation. Enfin, c'était on voyait des espèces animales, on voyait des poissons, on voyait des différentes sortes de requins, et donc il y avait une dimension pédagogique. Donc c'est intéressant ça. La différence entre le cirque par exemple, moi personnellement quand j'étais gamin ça me foutait le blues.
Ça va être interdit.
Entre le cirque et l'aquarium, c'est que dans le cirque, il y a effectivement une exploitation de l'animal. Et c'est ça qui pose problème. Dans un aquarium où on demande rien, on n'exploite pas l'animal, on peut avoir une dimension éducative. Je pense qu'il faut différencier ça des lieux qui sont des lieux purement, parce que ce qu'expliquait Charles à l'instant, il est évident.
évident que c'est placé dans le centre commercial pour attirer, bien même, évidemment, les acheteurs et les consommateurs.
Même dans des eaux normaux, dans des aquariums normaux.
Et je pense qu'on peut quand même discuter des contrôles. La préfecture, je crois, des Alpes-Maritimes a dit que d'ailleurs, sur la question des contrôles et de la vigilance, ils étaient très, effectivement, le degré était assez élevé. Je pense que la question des conditions on soit très vigilant sur la question de la souffrance animale, oui, mais dès lors que c'est une dimension éducative, ça ne doit pas être traité comme des lieux d'exploitation des espèces animales.
Charles, des messages sur le WhatsApp.
Oui, Jean-Christophe qui nous dit, mais attendez, ça va être quoi, la fin des zoos, la fin des aquariums? Comment sensibiliser nos enfants à la cause animale si on ne les voit plus en vrai, près de chez nous? C'est pas avec des images 3D qu'on va être sensible à la survie de ces espèces, estime Jean-Christophe. À l'inverse, Jimmy nous dit, aujourd'hui avec l'IA et les casques de réalité virtuelle, on n'a plus besoin de créer ce genre de zoo. On pourrait très bien créer des zoos virtuels dans lesquels on serait immergé au plus près des animaux. Et puis vous êtes nombreux à dénoncer, on va le dire comme ça, Élise, comme d'habitude, elle a passé ses soirées à faire la fête à l'aquarium et maintenant elle nous dit qu'il faut arrêter.
Excusez-moi de kiffer ma vie et aussi de me rendre compte de choses qui me semblaient totalement normales quand j'étais petite. Est-ce que vous laisseriez un chien toute sa vie enfermé dans un appartement?
Mais en fait,
c'est pas la question.
C'est le cas de plein de chiens.
Toute sa vie sans jamais sortir.
Sortir une demi-heure par jour.
Mais un mec qui fait ça, il va en prison.
Il y a plein de chats. Il y a plein de chats qui sont jamais sortis de leur ville.
Tu peux avoir de très grands aquariums. Mais oui. Tu peux avoir de très grands aquariums. C'est le cas par exemple à Nausicaa. C'est le cas de Nausicaa par exemple.
Vous m'en citez un. Moi, je peux te citer des milliards de zoos. Le zoo de Mulhouse. Le zoo de Cannes.
Mais on te dit que c'est pas pareil en fait. Donc,
c'est des zoos et des aquariums.
On est avec Joël de Boulogne-sur-Mer qui est demandeur d'emploi. Bonjour Joël.
Bonjour Estelle, bonsoir à toute l'équipe.
À Boulogne-sur-Mer, il y a Nausicaa, justement.
Il y a Nausicaa, exactement, oui. Donc, comme je disais aux standardistes, ça amène beaucoup de touristes.
D'accord.
Ça fait vivre l'économie locale, ainsi que les sorties scolaires. Les enfants aiment beaucoup, ils apprennent beaucoup de choses sur l'univers marin.
Donc vous vous dites, il faut garder Joël, en fait.
Il faut garder, oui, parce que alors le bien-être animal, on est d'accord. Donc oui, pour les supermarchés, etc., oui, on est d'accord. Mais là, vu la pollution qui est en mer actuellement, je pense qu'ils sont quand même mieux dans, là, par exemple, à Nausicaa.
D'accord. C'est vrai qu'il y a moins de prédateurs dans un aquarium que dans la mer. Pour
même surtout au niveau pollution.
Oui. Dans certains endroits, oui. Mais alors après, normalement, bon, quand même, on peut imaginer qu'un poisson est mieux dans la mer que dans un aquarium. Dans l'aquarium, il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de prédateurs. Mais enfin, l'espace est quand même moins grand. Ouais. Il est vraiment beau cet aquarium, Nausicaa, Joël?
Ah, il est très beau, oui. En plus, il fonctionne de l'agrandir. Oui, il est vraiment beau.
Ouais. D'accord.
C'était pour celui qui ne l'a pas encore fait.
Et ben voilà, allons tous à Boulogne-sur-Mer.
C'est extraordinaire, Nausicaa.
Merci beaucoup, Joël. Frédéric Salmeron également est avec nous. Il nous appelle de Saint-Martin-d'Hyères, dans l'Isère. Il est vice-président de la Fédération française d'aquariophilie. Bonjour, Frédéric.
Oui, bonjour à tous. Bonjour.
Mais merci d'être avec nous. Alors, d'abord, est-ce que vous trouvez quand même pas ça aberrant d'avoir un aquarium à requins dans un centre de Claire? Moi, ça me paraît fou, quoi.
Moi, je distingue de deux choses. Je distingue l'aquarium au sens attractif, au sens commercial du terme. Et je distingue également le côté cause animale, le côté maintenance d'un animal qui n'a rien à faire dans un aquarium, tel qu'un requin. Ce qui serait pas le cas, par exemple, avec certaines espèces qui vivent dans les grands lacs africains et qui ne sont pas en voie d'extinction ou qui ne sont pas non plus assez hautement en volume.
Mais alors donc, et juste pour répondre à ma question, est-ce que ça vous semble normal d'avoir un aquarium à requins dans un centre commercial?
Moi, ça me paraît un peu aberrant, je l'avoue clairement. Par contre, je pense qu'il faut, comme d'habitude, pas tout mettre, tout le monde et tous les hobbies dans le même panier. Mmh. L'aquariophilie, dans sa globalité, elle permet la conservation, à la préservation d'espèces qui sont gravement en danger en milieu naturel.
D'accord.
Tout comme le font certains parcs animaliers. Parce qu'il faut pas se voiler la face. Certaines espèces qui sont actuellement dans les zoos ou chez les particuliers passionnés ou dans des aquariums publics sont parfois en voie d'extinction ou ont été éradiquées de la surface de la Terre à cause de l'homme. On va bien, faut pas se mentir non plus. Dans des pays où le facteur écologique est pas le même que chez nous.
Oui, bien sûr. Les éléphants, les pandas.
Exactement. Où les besoins sont complètement différents et je pense qu'il ne faut pas tout mettre tout le monde au même niveau. D'accord. Quoi.
Mais voilà. Quand même, avoir un aquarium, Frédéric Salmeron, vous, j'imagine que, là, je parle des aquariums des particuliers, vous faites attention, etc. Mais oui. Il doit y avoir des gens qui s'en occupent pas très bien. On a tous connu, moi, la première, j'ai vu, je sais pas combien de poissons rouges, ils ont jamais duré plus d'une journée parce que je ne savais pas m'en occuper. Bon, c'est malheureux, mais c'est horrible. Alors, mes parents, à chaque fois, je les voyais jeter l'aquarium dans les toilettes et tirer la chasse quand j'étais petite. C'était affreux. J'en ai tué un nombre, mais ils étaient morts. J'ai repris toujours le petit ventre en l'air, c'était affreux.
Je vais y répondre. Je vais justement répondre à ça. C'est que de plus en plus, les animaleries déjà sont formées de manière beaucoup plus drastique sur la maintenance et la condition d'élevage des animaux et notamment des poissons. Mmh. Au-delà de ça, les associations aquariophiles et même des aquariophiles indépendants qui représentent quand même une grosse partie de la population éleveuse, on va dire, maintiennent avec rigueur leurs animaux, les aiment, les chouchoutent.
D'accord.
Et nous, au niveau de la Fédération française d'aquariophilie, on prodigue des formations, on aide les associations, on donne des conseils et on s'investit fortement dans la conservation et la préservation du patrimoine naturel.
Eh ben bravo à vous en tout cas et merci d'avoir été avec nous, Frédéric Salmeron, vice-président de la Fédération française d'aquariophilie. Voilà, quand on sait s'occuper des poissons, a priori on s'en occupe bien. Charles, on termine avec des messages.
Valérie qui nous dit, vous êtes quand même pas en train de vous larmoyer sur le fait que certains enfants ne verraient jamais de requins. C'est pas grave, on peut ne jamais voir de requins. Laissez-les en liberté, nous dit Valérie. Oui, David nous dit à l'inverse, c'est très bien les aquariums, c'est comme les zoos, ça permet d'approcher les espèces qu'on ne voit qu'à la télé. Et puis j'ai Christine qui nous dit, je suis sûr que vous ne lirez pas mon message, Charles, mais pitié, dites à Estelle qu'à chaque fois qu'elle parle d'animaux, on sent qu'elle n'aime pas ça. Voilà ce que nous dit Christine.
Elle tue les poissons rouges.
Je ne sais pas m'en occuper, c'est complètement différent. Je suis la seule à les aimer ici.
C'était important que Christine l'entende. Bien-être animal, faut-il en finir avec les aquariums? Vous avez répondu non, et franchement non à 70%.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
On va tout de suite s'intéresser à la proposition du jour.
Sur la plage abandonnée.
Cette proposition, c'est celle de Martine Vassal, candidate LR à la mairie de Marseille, qui souhaiterait rendre certaines plages de la ville payantes. L'idée serait de payer 10, 20 ou 30 euros la journée pour avoir un transat et un parasol. Ça peut paraître choquant, mais ça se fait déjà en Italie et sur plusieurs plages de France, notamment dans le sud, Charles.
Oui, 1500 plages privées en France. Alors, on est encore loin des Italiens qui en sont à plus de 12 000 plages privées. Alors, attention, en France, on les appelle plages privées, mais elles n'en sont pas vraiment. C'est interdit, impossible de privatiser officiellement la plage qui appartient au domaine public maritime. Les plages privées, en fait, sont des concessions commerciales accordées par les mairies ou les préfectures aux exploitants, généralement des restaurateurs, pour une durée de 12 ans maximum. En 2006, un décret avait même durci les règles, interdiction des constructions en dur et puis respect d'une bande de passage de 5 mètres environ le long de la mer. Le transat le plus près de l'eau ne peut pas être à moins de 5 mètres de la mer.
Oui, il ne te reste pas grand-chose pour mettre ta serviette quand même. Hein.
Oui, c'est vrai que ça fait court. Les départements champions sont le Var, la Corse, les Alpes-Maritimes. L'exemple le plus emblématique en France, c'est Saint-Tropez. La longue plage de Pamplonne, c'est un peu plus de 4 km sur lesquels on trouve 22 concessions de plages privées, mais ça représente quand même 1000 emplois directs pour cette seule plage de Pamplonne, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros par an. Des plages privées parfois contestées. À Le Cat, dans l'Aude, par exemple, le renouvellement des concessions sur les plages avait donné lieu en 2021 à une vive polémique. Une pétition d'habitants avait rassemblé près de 30 000 signatures.
Alors, pour ou contre les plages privées payantes, Fred Hermel?
Ah ben, j'ai découvert ça vraiment cet été, enfin l'été dernier, en allant en Italie. L'hôtel où j'étais avec mon neveu avait sa plage privée avec son maître-nageur, avec le petit parasol, avec la petite serviette et tout ça. C'était compris dans le prix de la chambre et c'était quand même bien agréable.
C'est-à-dire d'être entre soi, quoi, de pas avoir de gens précaires.
Très bien. Alors c'était vraiment très très sympathique, très, très familial. C'était vraiment très très sympa. Après, à partir du moment où il y a une offre supplémentaire. C'est-à-dire, c'est pas la plage interdite aux autres. Non, c'est que tu payes pour un service. C'est-à-dire que tu t'embêtes pas avec ta serviette, tu t'embêtes pas avec le parasol, tu t'embêtes pas avec les transats, etc. Donc c'était très agréable. Donc à partir du moment où ce n'est pas l'ensemble des plages qui sont réservées, voilà, à partir du moment où il y a certaines plages avec un service un peu plus pour lequel certaines personnes veulent payer, pourquoi pas.
Mais c'est de la discrimination à la plage.
C'est une discrimination par l'argent. Oui, oui.
Et ça ne te choque pas. Toi, l'homme de gauche.
Oui.
Alors, enfin, je veux dire, non, il le fut à un moment.
Le défenseur de la sécurité sociale.
Ah oui, ça n'a rien à voir. J'attendais ça là. Non, ce qui me choquerait, c'est si l'ensemble des plages était fermé au public.
Là, oui, ça veut dire quoi ? Franchement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton restaurant un peu chicos, il va privatiser la plage. Il va pas privatiser la plage la plus moche. Donc, il va privatiser la plus jolie plage. Donc, au final, les riches vont aller sur les plus belles plages et les pauvres vont se retrouver sur les plages les plus près du port.
Je vais reprendre l'exemple de Sestri Levante où j'étais l'été dernier. Je vois même la plage publique était beaucoup plus belle que la plage où on était nous.
D'accord.
Vraiment, enfin c'était une petite crique et tout, c'était magnifique la plage publique. Après voilà, je me suis posé la question parce que c'est la première fois que j'allais sur une plage privée. Mais en fait, j'ai appris qu'en Italie, c'était quasiment la norme.
Oui. Donc mais en Italie, c'est pas parce que les plages elles sont quand même on va dire en Sicile encore dans leur jus. Mais tu vas en Grèce, là où il y a 20 ans, les plages tu pouvais aller mettre ta serviette et tranquille sur les îles. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des clubs sur la plage, c'est-à-dire qu'en fait tu payes ton parasol, ton transat. Les enfants jouent pas hein, parce qu'il y a pas d'enfants. Et là, tu te retrouves avec de la musique à fond, que des jeunes, etc. C'est ça la privatisation d'une plage. C'est le risque aussi. Toi qui aimes lire, eh ben tu vas te retrouver avec de la musique à fond la caisse, parce que t'auras que des jeunes qui ont payé des coupes de champagne, des transats, etc. C'est ça le risque aussi. Et c'est d'enlever les enfants de la plage, parce que tu vas pas payer un transat à 20 euros pour un gamin qui a 3 ans. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le gamin, il a sa serviette à 10 mètres de toi, et toi t'es sur ton transat. C'est ça le risque.
Simplement, je vois l'exemple, j'étais un peu choqué parce que je n'avais jamais fait, mais je trouve que la manière dont c'est organisé en Italie, je trouve ça plutôt bien. Et après, il y avait un petit bar au fond, mais il n'y avait pas le fait de la musique. Ouais. Justement, il y avait une personne qui était là pour s'assurer que tout était calme.
C'est encore un peu dans son jus.
J'aimais bien le côté, j'ai pu lire vraiment très, très, très tranquillement. Oui.
Alors, Élise Goldfarb, là, je me mouille la nuque, hein, avant de venir
la zone.
J'imagine que vous êtes celle d'entre nous qui avait le plus fréquenté les plages privées.
Le plus d'entre nous, je sais pas. Attends, Estelle, t'es une bonne vivante aussi. Hein.
Et alors, je suis bonne vivante avec en Bretagne, les plages privées, ça court pas les rues.
Moi, je suis assez surprise que tu découvres les plages privées, parce que quand j'étais petite, moi, ma grand-mère, elle habitait à Cannes. Quand j'avais 1 an, 2 ans, même 5 ans, on allait. Il y avait déjà des plages privées à Cannes. Il y avait la plage Royale, qui était très connue, où les gens allaient pour manger une solmenière, et on y allait. Ça n'empêchait pas.
Et un canard laqué.
Voilà. Mais ça n'empêchait pas que la plage collée à la plage Royale était une plage publique. Et donc, en fait, aujourd'hui, déjà en France, on le fait très bien. Moi, je trouve la séparation plage publique plage privée, c'est-à-dire que c'est très encadré, c'est très très normé. T'as des endroits comme, par exemple, moi, je vais souvent à l'île de Ré. Avec mes amis français.
Riches.
Voilà.
Quoi, tes amis français, je comprends pas.
Non, mais je suis française, mais ils sont moins orientaux que moi, je dirais, dans l'ambiance. Je vais souvent à l'île de Ré. L'île de Ré, c'est une île qui a interdit la privatisation des plages.
Bah oui.
Donc, tout le monde est logé à la même enseigne.
Ouais, et on est quand même très heureux à l'île de Ré.
Mais il m'arrive aussi de me dire parfois, j'aimerais bien avoir le choix, avoir juste même une plage où je peux aller dans un transat et pas avoir du sable plein le...
D'accord, on a compris.
Voilà. Vous avez compris. Donc moi, ce que j'aime, c'est avoir le choix. Évidemment, il y a des plages. Par exemple, tu vas à Saint-Tropez, c'est honteux, c'est ridicule. Je trouve ça plouque, moi, à limite, je vais vous dire. Oui. De payer 200 balles ta journée sur un transat, tu es ridicule. Tu me fais de la peine, voilà. Tu me fais de la peine. La personne qui est capable de faire ça, de se faire une addition à 1000 balles juste pour être sur un transat, et parce qu'en plus, t'as des minimum spend de consommation, t'es obligé de dépenser 200 balles. Oui. Eux, ils me font de la peine. Miskin. Mais c'est sympa aussi de pouvoir avoir le choix. Moi, ce que j'aime, c'est être à la plage, par exemple en Corse. S'il y a une journée où j'ai envie d'être en kiff sur un transat, j'y vais, mais je vais pas jamais payer le transat à 100 balles. C'est ridicule. Il y a des transats, ils coûtent 20 euros la journée, ce qui me paraît normal, ça va. Et parfois, j'ai envie d'être en plage publique, kiffer dans le sable avec mes copains, avoir mon pique-nique, aller m'acheter une assiette de frites. En fait, on peut juste avoir le choix. Et pour l'exemple de Marseille, pour l'exemple de Marseille, c'est un cas particulier. Marseille, il n'y a pas de plage. Et le peu de plage qu'il y a, je sais pas si vous êtes déjà allé sur la plage des Catalans. C'est pas un kiff. C'est pas un kiff. Il y a trop de monde.
La plage du prophète,
tu te fais emmerder.
La plage du prophète est géniale. La plage du catalan,
trop de monde
un très
partout.
Bon moment,
Donc je comprends qu'il y ait des gens qui disent venez, on essaye de faire un peu des plages privées pour que les gens kiffent et qu'on n'aille pas se piquer le cul sur les cailloux.
Oui, mais ça s'appelle la sélection par l'argent. Il faut dire ce qui est.
Est-ce que tu dis qu'entre un parc public et le jardin d'acclimatation, c'est une discrimination économique? Non, c'est juste que tu proposes un service différent.
Pour une précision, ça n'existe pas une plage entièrement privée en France. Au contraire, la loi Littoral dit
On peut mettre des plages privées en France, mais 80% d'une plage doit rester publique. Donc c'est 20% maximum d'une plage qui peut être privatisée.
Voilà. Alors quand moi je suis allée sur des plages et je ne savais pas qu'elles étaient privées au départ. Et quand je suis arrivée, je m'en suis rendu compte. Je t'assure que c'était pas 20% et que
tu te rends bien compte que, loi, mais...
que les transats, ils ont été bien poussés vers la mer, quoi. Parce que la personne qui est en première ligne,
c'est sur la largeur de la plage. Il ne peut pas y avoir toute la plage privatisée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais on peut mettre des transats jusqu'au bord, ça c'est pas la question, jusqu'à 3 mètres du bord, c'est ça la loi. Mais 80% de la plage doit rester publique.
Franck est avec nous et après je reviendrai vers vous. Benjamin Amar, il est commercial à Jonage dans le Rhône. Bonjour Franck.
Bonjour.
Et Franck, vous êtes fan de plages privées, c'est ça?
Ouais, bah écoutez, j'aime plutôt, c'est plutôt très agréable, je trouve. Mmh. Après, avoir des plages privées, ça n'empêche pas d'avoir du public. Il y en a pour tous les goûts. Et moi, en plus, je sais que j'ai un petit appartement du côté d'Antibes, je ne l'ai pas.
D'accord.
En plus, ça lie deux sujets. S'il y a un ponton, en plus, qui est interdit aux enfants.
Mais c'est-à-dire que vous y allez pour éviter les enfants.
Ben écoutez, quand on a un certain âge, on a un pouvoir d'achat qui nous le permet, on a envie d'être tranquille sur la plage, pas avoir des enfants qui vous jettent du sable quand on est tranquille sur la plage.
Vous voulez dire que les enfants de riches ne jettent pas de sable?
Ah ouais, il y en a aussi en privé, hein.
c'est interdit aux enfants. C'est interdit aux enfants. Il y a riche ou pas riche, c'est interdit aux enfants, tout simplement.
Alors moi, je ne savais pas. Alors là, vous m'apprenez, Franck, qu'il y a des plages no kids. Alors là, ça.
Si,
je
ne
savais pas, non.
Ce n'est pas une plage, c'est le ponton de la plage. C'est le ponton de la plage. Il y a une plage privée, avec la plage privée où il y a des enfants, et vous avez une partie qui a un ponton. Là, c'est interdit aux enfants.
D'accord, parce qu'il y a des risques de noyade. Vous payez combien votre transat, Franck?
C'est 80 euros, je pense, les deux transats à la journée.
Ah oui, donc ça fait 40 euros le transat et le parasol?
Ah, tout est inclus.
D'accord, ok, donc ça fait 40 euros. C'est quand même cher, 40 euros la journée pour aller à la plage, Franck.
Mais c'est vrai, mais bon, écoutez, quand on veut avoir la tranquillité, on n'a pas de prix.
D'accord. Et t'as des toilettes propres, tu peux appeler le serveur, il t'amène ton coca si t'as envie de boire du coca.
Voilà, vous avez le petit serveur ou la serveuse qui va vous apporter ce que vous avez envie. Ouais. Vous avez le maître nageur qui en plus...
Et vous payez le coca 15 euros.
Du ponton qui est interdit aux gens qui ne font pas partie de la plage de rentrer. Tout le monde ne peut pas venir sur le ponton.
Il y a un vigile de plage.
Ouais, mais en fait, je veux dire, personne n'est obligé de venir.
Oui, de toute façon, le prix fait que tout le monde ne peut pas venir. Franck, évidemment, mais vous regrettez pas quand même. Je veux dire, le temps où, sur la plage, tout le monde était logé à la même enseigne. Mais et puis, il y avait des vendeurs de chichis, de beignets, etc. Là, sur ces plages-là.
Ils sont encore là.
Oh bah ils sont pas sur les plages privées, Charles.
Ils sont toujours là. Ils sont toujours là.
Sur votre ponton aussi. D'accord. Mais écoutez, Franck, en tout cas, merci de nous avoir avoir appelé. Elle est où cette plage, Franck?
À Antibes, j'en ai pas.
À Antibes, j'en ai pas. Merci beaucoup. Franck, Benjamin Amar. Alors bon, en tant que personnalité de gauche, j'imagine que ça doit vous hérisser ces plages quand même payantes, privées.
Moi, je suis. Il y a une loi en France qui, elle a été citée, c'est la loi Littoral. Je crois que vraiment on peut s'en féliciter parce qu'on protège les littoraux et c'est une excellente chose. C'est pour ça que moi, par exemple, j'adore les plages du Sud-Ouest. Ces immenses, cordons de sable à perte de vue, très larges. Et moi, je suis très attaché justement à l'accessibilité publique. Quoi, c'est vraiment un bien commun et c'est comme ça que c'est pensé d'ailleurs le littoral en France. Alors les plages comme ça, on a une photo là derrière nous.
Ouais, on voit
pas où ça se situe, mais enfin c'est incroyable.
C'est Italie, ça, c'est Italie.
Voilà, donc ça, vous avez pas un mètre carré, vous avez que des plages privées qui se succèdent.
Comme ça en Grèce autres. Aussi. Hein.
Et bien et évidemment, France, derrière, il y a quand même un plaisir qui est un plaisir simple, y compris dans l'histoire des congés payés, c'est aller à la mer effectivement avec.
Entendre les enfants. En fait.
Ouais, voilà, et c'est un lieu de vie.
Attends, juste pas tout. Attends, l'Italie, c'est populaire. Il y a des enfants, ça coûte 10 balles la journée. Il y a des jeux pour enfants, d'accord. etc. C'est des plages familiales.
Mais j'entends, Charles, mais moi, je te parle d'aller à la plage gratuitement, en fait. Voilà. Tout simplement, tu vas à la plage avec ta serviette, ton parasol, tu peux l'amener toi-même, ta glacière, et ça te coûte, tu n'as pas à payer des sommes astronomiques. Derrière, bien sûr qu'on peut penser à le minimum, quoi. Le minimum, c'est en réalité qu'il y ait au moins, effectivement, une plage hybride avec une plage privée et derrière,
une large plage publique. Mais l'exemple italien montre bien que c'est pas si facile, que c'est pas si simple de doser. Alors, en plus, en Italie, ce sont des plages méditerranéennes, donc elles n'ont pas forcément, c'est pas ces grands boulevards atlantiques
qu'on peut trouver. Voilà.
Ça, à la rigueur, le système hybride sur les plages atlantiques, il y a tellement de place qu'on pourrait le penser. Mais regardez, sur une plage italienne ou une plage
grecque, c'est comme ça dans le sud, hein, en fait.
Voilà. Et ben là, c'est moi, quand je vois ça, je trouve ça oppressant.
Mais vous payeriez, vous, Benjamin, pour un transat et un parasol?
Non, pas 40 balles. Moi, vous savez.
D'accord. Vous payeriez, oui, non, mais pas 40 balles.
Mais enfin, bien évidemment, le
donc
prix.
Vous payeriez
ça
combien?
Mais, vous savez que je suis un fan du Maroc, moi.
Oui.
Eh ben, au Maroc, vous avez des transats pour 2 euros la journée, 4 euros la journée. Mais 40 balles, jamais de la vie.
Enfin, d'accord. Mais donc, vous êtes pas contre vous êtes contre le prix
c'est pas l'histoire de Pan-France, c'est le prix. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui seraient d'accord avec moi. Payer 2 balles, ok, mais 40 balles, non, certainement pas. Et de manière générale, de toutes les façons, moi je suis, bien sûr, le transat et le parasol, ça peut être sympa, mais le transat, on peut l'amener, la serviette, on peut l'amener.
Ouais,
et
derrière, un transat, quand vous avez 2 enfants, pardon, excusez-moi, faut déjà trimballer les enfants, si en plus faut trimballer la glacière, le parasol et le transat.
Ouais, à la fin, alors s'il faut choisir, moi je vous dis, j'ai pas de problème à me ramener avec les serviettes et le temps.
Ah bah les serviettes sont, enfin on te les file aussi.
Pour si c'est pour raquer un bras à la fin, je préfère effectivement la plage publique largement où tout le monde peut venir avec sa serviette et c'est ça le plaisir de la plage. C'est pas aller payer 20 balles un coca quoi.
Alors on vous a posé la question, ça divise quand même ce sujet sur les plages privées. C'est génial ou c'est scandaleux?
C'est scandaleux. Plages privées, vous êtes 65% à répondre scandaleux quand on vous parle des plages privées payantes.
Et Benjamin qui dit bien alors qu'il est favorable.
Non,
il est régalé au Maroc, oui. Vous rigolez?
C'est génial au Maroc, scandaleux en France.
Charles Magnien, quand il a fallu donner mon avis, j'ai dit quoi? J'ai répondu, c'est scandaleux.
Oui, oui.
On peut vérifier le mail si vous voulez.
Ah, ouais.
Les Français ont raison.
Un petit coca, un parasol et un transat au Maroc, pas de soucis.
Ma préférence, je vous ai dit, en France comme au Maroc, ma préférence va à la plage publique.
Ouais. On n'avait pas tout à fait entendu ça. Bon.
J'y crois pas. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Voilà, c'est la fin de ce best-of d'Estelle Midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain midi 14h pour d'autres meilleurs moments d'Estelle Midi. Salut à tous.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.